Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir et bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. C'est la dernière émission de la saison ce soir, la dernière avant la trêve estivale et je vous propose quelques livres qui pourrait parfaitement vous accompagner cet été où que vous alliez, roman ou essai. Voici des livres passionnants qui racontent la planète et ses enjeux, loin, très loin, vous allez le voir, du discours anxiogène, sans vous culpabiliser, mais en vous racontant des histoires. Celle d'un poulpe qui vous sert son autobiographie, par exemple, d'un mammouth décongelé en Sibérie, d'un élagueur d'arbres piqué par des frelons ou d'un drôle de pangolin que l'on dit responsable de tous les maux de la planète. Quelle est la place des humains sur Terre, leur lien avec le reste du monde vivant? Eh bien, pour en parler, j'ai réuni ce soir philosophe, psychologue, journaliste scientifique et romancier. Bonsoir, Vinciane Després.
Bonsoir.
Alors, vous cumulez à vous toute seule trois de ces appellations, puisque vous êtes philosophe, psychologue, éthologue également. Cessez de voir la nature comme un objet de domination, donner la parole aux animaux, parfois les plus étranges, hein, comme le wombat, le poulpe, l'araignée. C'est une véritable leçon d'émerveillement que vous nous proposez dans « Autobiographie d'un poulpe », où il est question, entre autres, de la poésie vibratoire des araignées et des aphorismes des poulpes. Je me suis dit, en vous lisant, que votre livre allait enchanter un romancier qu'on connaît bien dans cette émission, c'est Didier Van Cauwelaert. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Romancier, prix Goncourt, 1994, écrivain prolifique, mais il faut dire que vous vous intéressez depuis toujours aux sciences et que vous militez, livre après livre, pour une réconciliation entre l'humain et la nature, les différentes formes du vivant. Voici maintenant « Le pouvoir des animaux », roman où l'on découvre que l'humanité pourrait bien être sauvée par un mammouth cloné et un tardigrade décongelé. Si toutefois les humains réussissent leurs histoires d'amour, ce qui est une autre paire de manches, mais ceci est un autre sujet. Bon, populariser la science, comprendre qu'un lien existe bel et bien entre la biodiversité et la pandémie de Covid-19 que nous traversons, comprendre que l'étude des causes peut mener aux solutions, eh bien c'est tout l'enjeu de l'excellente enquête que vous signez, Marie-Monique Robin. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir. Alors vous, votre profil est assez particulier. Vous êtes journaliste, réalisatrice de documentaires. Vous vous intéressez, j'ai regardé un peu votre travail de près, aussi bien aux sciences dures que parfois à la poésie et à la fiction. Mmh. Et c'est précisément cette transdisciplinarité qu'on va explorer ensemble. La fabrique des pandémies, votre livre, résultat d'un saisissant travail mené auprès de dizaines de scientifiques qui viennent de toutes les disciplines. Si rien n'est fait, d'autres pandémies arriveront. Bon, ça, c'est clair, tous les scientifiques le disent, mais, et ça, on va le voir, nous pouvons agir. Et puis un roman qui illuminera votre été. Bref, fulgurant, c'est le roman de Christophe Bataille. Bonsoir Christophe Bataille.
Bonsoir, François Bunel.
Vous êtes éditeur et romancier et vous publiez La Brûlure, qui raconte la vie d'un élagueur d'arbres soudain attaqué par des centaines de frelons asiatiques. Que voit-on là-haut dans les arbres ou à leurs pieds qu'on ne voit plus lorsqu'ils ont disparu? Voir le monde autrement quand on est dans la nature, est-ce que c'est cela, en réalité, le principal enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, en 2021? À la lecture de tous vos livres, romans ou essais, j'ai l'impression que c'est peut-être vers cela qu'il faut que nous allions, non, Vinciane Després?
Alors, je pense qu'il y a, quantité de points communs, mais qui sont une très grande diversification des manières d'aimer.
D'aimer.
Alors, je dirais d'aimer, parce que quand je prends, par exemple, les lagueurs d'arbres, en fait, les grimpeurs d'arbres, hein, puisqu'il se définit le héros du livre de Christophe, de La Brûlure, eh bien, en fait, à un moment donné, vers la fin du livre, il va dire qu'il va conseiller à un maire d'abattre des arbres en disant, écoutez, ils ne vont pas bien, ils ne sont pas beaux, ils font les remplacer par de jeunes arbres. Et donc, la proposition est scandaleuse aux yeux de...
Ce n'est pas de l'amour, ça.
Voilà. Et ça, je pense que c'est une forme d'amour.
Ah, c'est une forme d'amour.
Ah ben oui, justement, de se dire à un moment donné, ces arbres ont peut-être assez vécu, leur vie n'est plus belle. Je veux dire, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Parce qu'en fait, un homme comme celui-ci, qui existe vraiment, qui est un de mes cousins, il considère qu'il est un accompagnateur.
Il n'est pas là pour soigner le paysage, il n'est pas là pour le rendre beau, il n'est pas là pour le curer, il est là pour l'accompagner. Donc il monte dans l'arbre, il grimpe dans la sphère, ce lieu assez dangereux où on peut mourir, et rien ne va jamais. S'il taille l'arbre pour lui redonner vie, la foule le tense en disant « Salaud, assassin, tu coupes l'arbre, etc. etc. » Et s'il ne fait rien, l'arbre prolifère, 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 et ça fait assez peur. Lui a marché dans des oliviers qui ont 2000 ans en Sicile, et il ressent pieds nus des ondes un peu étranges. Alors il faut croire à ces choses-là peut-être. Mais donc c'est un accompagnateur.
Est-ce que c'est le bon mot, ça, Didier Van Kovelaert ? D'abord, amour.
Oui.
C'est pas celui auquel je m'attendais, même si je l'adore. Et ensuite, accompagnateur pour nous définir, nous, humains, parmi les vivants.
Je veux dire, je pense que l'intérêt qu'on témoigne à un animal ou à un arbre peut réveiller sa conscience et peut créer des échanges. Si vous voulez, l'admiration... l'attention qu'on porte à un arbre comme à un animal et l'envie d'essayer de le comprendre, pourquoi il va mal, pourquoi il va bien, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Il va aller mieux si cet échange se fait et nous, on va en tout cas se porter mieux. Je crois beaucoup à cette interconnexion.
On va commencer avec l'œuvre littéraire des animaux. Tiens, si je vous parle de la poésie vibratoire des araignées, de la religion des wombats et des aphorismes des poulpes de Cassis, ça vous dit quelque chose ? Vous allez voir, c'est stupéfiant. Vinciane Després, vous êtes donc chercheuse à l'Université de Liège, en Belgique. La philosophie et la psychologie peuvent faire bon ménage avec la poésie, avec un certain sens de l'humour hein, aussi, car votre livre, je trouve, en déborde. C'est ce que vous montrez dans cette autobiographie d'un poulpe paru chez Actes Sud. Il s'agit d'un recueil de récits d'anticipation, peut-être un peu de science-fiction. Il va vous falloir distinguer le vrai du faux. Et ce qui raconte, ce que pensent, ce que sentent, ce que vivent les animaux, eh bien, est très présent. Ainsi que les leçons que peut-être nous autres humains pourrions peut-être tirer de leur fabuleux pouvoir. C'est étourdissant, hein, je dois dire, votre mise en perspective. On ressort de cette expérience de lecture à la fois joyeux, un peu sonné. Comment le poulpe est-il entré dans votre vie ?
Alors, il est entré dans ma vie parce qu'il était tellement énigmatique. Je veux dire, c'était un être tellement énigmatique. Je veux dire, pour moi, et je ne suis pas la seule à le penser, si on devait dire quel est l'animal qui ressemblerait le plus à un alien,
oui.
Je pense tout de suite au poulpe. Alors pourquoi l'alien ?
Jules Verne nous a un petit peu aidés avec 20 milieux sous les mers, et voilà. Cet imaginaire du poulpe dangereux, la grande pieuvre.
Alors pas seulement la dangerosité peut-être aussi, mais je pense que j'ai quand même pas mal d'écrits qui montrent que le poulpe n'est pas si dangereux que ça, ou en tout cas que ce que Victor Hugo a imposé comme image de la dangerosité ne s'est peut-être pas imposé. Mais je veux dire un alien, pourquoi ? Parce qu'une extraordinaire intelligence... Ouais. Et une configuration tout à fait autre que les nôtres, c'est-à-dire une intelligence dont on ne peut pas dire qu'elle est comme la nôtre, et encore, est-ce que la nôtre l'est vraiment ? Mais enfin, en tout cas, que notre culture nous contraint quand même à avoir une espèce d'intelligence qui nous unifie, qui fait de nous des individus, qui nous donne le sentiment qu'il y a un cerveau qui contrôle et que les membres obéissent, donc une espèce de hiérarchisation des corps, alors que chez le poulpe, visiblement, je reprends une image, par exemple, que des chercheurs ont dit, c'est le poulpe. Et bien, en fait, c'est le cerveau central serait un peu comme un chef d'orchestre, mais dont les jazzmen en pleine improvisation seraient particulièrement peu désireux d'obéir. Voilà.
C'est pas mal, ça.
Donc, je veux dire. Donc, voilà, une intelligence. Ouais. Vous avez des membres qui ont une forme, alors pas une totale indépendance, mais une forme d'indépendance par rapport au système nerveux central. C'est l'étrangeté totale pour nous. Quoique, et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'étrangeté totale. Sauf si on se dit, et tiens, quid des musiciens, quid des pianistes ? Quand un pianiste vous dit, ah ben à un moment donné, mes mains elles vont faire le travail toutes seules, si mon cerveau continue à essayer de contrôler, ça ne fera pas quelque chose de très très bon, ça ne se passera pas très bien. Donc on se dit, oui, mais alors les pianistes, et puis qui ? Et puis qui ? Et on se rend compte en fait qu'on est dans notre propre corps un rapport poulpesque à certains égards, mais il faut le cultiver, il faut l'exercer, voilà. Donc c'est à la fois une intelligence.
J'aimerais qu'on
alien.
Développe le rapport poulpesque de chacun d'entre nous et des téléspectateurs, parce que non, mais vous avez raison. J'ai aussi le sentiment, mais à vous lire, là, j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous renversez aussi une vapeur que longtemps les écrivains ont maintenu. Jules Verne, on le disait, a fait de la pieuvre l'animal qui menaçait l'humanité, Nemo dans son Nautilus. Victor Hugo, vous le disiez, les travailleurs de la mer sont menacés par la pieuvre géante. Mais Homère aussi nous décrit la pieuvre comme étant l'animal mythologique qui peut anéantir l'humanité. Pour quelle raison avez-vous, vous, eu envie, vous travaillez sur l'araignée, on pourrait parler évidemment de Tolkien et de ses araignées, mais pourquoi cherchez-vous presque à réhabiliter ces animaux qui ont été si maltraités par la littérature ?
Alors, je ne voulais pas réhabiliter le poulpe. Je voulais faire du poulpe, en fait, une forme d'expérimentation. Alors, l'expérimentation de qu'est-ce que voudrait dire vivre en étant le double d'un poulpe, hein, puisque c'est l'aventure que vont tenter une communauté de personnes qui voudraient lutter contre l'extinction des poulpes. Hein, on est dans un futur assez indéterminé, mais on pourrait dire 2072, par exemple, pour 2172, par exemple, qui vont tenter de lutter contre l'extinction des poulpes et qui vont le faire de plusieurs manières. Et qui vont le faire en optant d'abord pour tout un travail de réhabilitation des mers, d'essayer de reconstruire un milieu possible pour les poulpes qui ne les fréquentent plus. Et à la fois, un travail alors, qui est assez impressionnant, de continuer à commémorer ce que les poulpes étaient au cas où ils disparaîtraient pour toujours, c'est-à-dire à devenir eux-mêmes des sortes de poulpes dans le monde. Pas tous, il y a certains enfants qui sont en quelque sorte choisis pour devenir, en quelque sorte, pour vivre une vie, une manière, pas une vie, mais une manière d'être de poulpe. Donc on leur apprend, en effet, à sentir la lumière avec la peau, on leur apprend à donner de la dépendance à leurs membres, donc à créer ce chef d'orchestre, que le cerveau devienne ce chef d'orchestre qui n'est pas toujours bien obéi.
C'est ceux que vous appelez les sim-enfants.
Ce sont les sim-enfants.
J'aime beaucoup l'expression S-Y-M.
Ce sont des enfants symbiotes. C'est des symbiotes des poulpes. Et donc, cette communauté va essayer de mettre ça en œuvre, c'est-à-dire de garder le poulpe avec nous, qu'il disparaisse totalement ou qu'il ne disparaisse pas. Ils vont jouer un peu ils vont parier sur les deux tableaux.
J'arrête deux secondes la romancière qui est en vous, car on a bien compris que ce sont des fictions. Est-ce possible ? Et je m'adresse à l'éthologue et à la philosophe, mais aussi à la spécialiste du comportement des animaux. Est-ce techniquement possible ? Pouvons-nous apprendre à devenir des sim-enfants, à faire la symbiose entre ce que le poulpe nous enseigne et ce que nous savons faire, nous, humains ?
Alors, c'est un pari. Alors, c'est un pari que ce serait possible. Est-ce que c'est possible ? Alors, il y a quand même des choses que je sais que certaines personnes, quand je vous parle du pianiste, quand je vous parle, par exemple, où je vous dis que, tiens, vous savez qu'un des meilleurs archers au monde a une vision de 1/10. Bon, comment est-ce que ça fait ?
Quoi ?
Un des meilleurs archers au monde.
Un dixième seulement.
Voilà, 1/10. C'est un journaliste sportif qui m'a appris ça.
C'est rien.
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des corps entraînés, travaillés, les corps. Et quand je parle d'amour, c'est ça en fait. Aimer, c'est pas un amour guimauve ou quoi que ce soit. Aimer, c'est devenir un amateur, c'est-à-dire devenir une forme de crier. Hein, je veux dire, le grimpeur d'arbres, il aime ses arbres, ça veut dire que c'est un amateur d'arbres.
Et peut-être pourrons-nous un jour avoir accès aux œuvres littéraires des poulpes, parce que ce que vous imaginez, Vinciane Després, c'est que dans ce futur, dans un siècle et demi, finalement, les chercheurs auront découvert on peut imaginer des tessons d'amphores, hein, Didier Van Cauwelaert, comme on en a beaucoup en Méditerranée, du côté de Nice, que vous connaissez bien, là on est à Cassis, dans les Calanques, on découvrirait des aphorismes, mais d'ailleurs c'est tout à fait logique, que n'y a-t-on pensé plus tôt ? Le poulpe projette son encre, nous on est obligé d'aller la fabriquer l'encre, nous autres humains, lui il l'a à disposition, c'est donc un écrivain.
Voilà, c'est ça. L'écriture, ça, c'est quelque chose que... Alors là, on est beaucoup plus sérieusement. Moi, j'avais déjà trouvé cette idée chez le philosophe Michel Serres.
Oui.
Michel Serres avait proposé une théorie, ce qu'on appellerait de l'écriture généralisée, c'est-à-dire toutes les choses écrivent. Le chasseur lit les traces du sanglier, donc on peut imaginer que le sanglier a écrit des traces. D'autant plus que plus on avance, et là, je me fonde aux recherches de Baptiste Morisot, notamment, que vous avez déjà reçu ici aussi, c'est que de plus en plus, on pense que les laissés, les traces, sont assez délibérés chez les animaux. Donc avant, on pensait, ce sont des choses qu'on laisse un peu passivement, donc on laisse des marques. Non, il y a vraiment un marquage, je veux dire, de plus en plus, on pense aux traces en tant que message écrit, délibéré. Je vois l'exemple de ma chienne. Quand je vais promener avec ma chienne, je dis on va relever tes mails, quoi, parce que c'est pas croyable.
C'est pas mal.
Il y a un tel qui est passé, il se passe des choses. Tiens, je vais répondre à celui-ci. Je n'ai pas vu assez. C'est assez extraordinaire.
Ça dit, c'est un animal domestique. Vous, ce que vous étudiez ici, ce sont des animaux qui ne sont pas domestiqués. Hein. Vous dites la même chose du vol des oiseaux.
Selon certaines hypothèses, parce que dans la théorolinguistique a reçu, je veux dire, plusieurs possibilités d'histoire. Il y a l'histoire que Ursula Le Guin va leur attribuer.
Grande romancière américaine, décédée il y a quelques années.
Je veux dire, selon les possibilités, de temps en temps, je leur offre une histoire ou une autre, parce qu'on ne connaît pas très bien l'origine de cette histoire, eh bien, on est obligé de la reconstruire a posteriori au futur antérieur. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que, pour certains, eh bien, selon certains historiens de la théorolinguistique serait née avec les chiens, justement.
Ah, dites-nous d'un mot ce qu'est la théorolinguistique.
Ah oui, c'est vrai, moi j'oublie, là, je suis...
Vous le dites, le glossaire est présent dès la page 1 de votre livre, donc c'est très simple pour ceux qui nous regardent. Vous ne serez absolument pas perdus, c'est très clair. La théorolinguistique.
Alors, la théorolinguistique, c'est de théron, théro, le sauvage en grec, et donc c'est un terme que la grande autrice de science-fiction, Ursula Le Guin, va inventer dans une nouvelle qui s'appelle « L'auteur des graines d'acacia », qui est publiée en 1974. Il faut mettre le siècle pour être sûr. Je suis en train de perdre tout le monde. Et dedans, elle va inventer une association de scientifiques qui vont prendre au sérieux non seulement le fait que les animaux ont des langages, mais qu'ils écrivent et qu'ils écrivent de la littérature. Il y a des poésies. Et donc, par exemple, elle va faire démarrer les recherches sur l'idée que des théorolinguistes ont découvert des traces d'exsudation de glandes de fourmis sur des graines d'acacia à l'entrée du tunnel d'une fourmilière. Et donc, ils vont devoir les traduire, ils vont réussir à les traduire, et ils vont découvrir que c'est probablement, parce qu'il y a une controverse là-dessus, à cause du fait, par exemple, qu'on trouve, par exemple, comme terme, « manger les œufs ». Et puis une autre phrase qui dit « là-haut la reine », mais qui se dit « là-haut la reine, comme le haut, c'est dangereux pour les fourmis », ça doit dire « ah bah la reine », donc probablement une poésie pamphlétaire. Ça, c'est une...
C'est quand même génial quand on y pense. Mmh. Mais attendez, ça, c'est une intuition d'une romancière brillante, Ursula Le Guin, mais romancière. C'est-à-dire qu'elle travaille à partir de son imagination, comme Didier Van Cauwelaert, comme Christophe Bataille. Vous arrivez 50 ans plus tard, c'était en 1974, et vous nous dites, mais non, la science donne raison à ces romanciers. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est finalement l'imaginaire débridé des romanciers qui permet aux scientifiques de travailler aujourd'hui? Alors, on peut aller jusque-là?
Alors, il me semble que les romanciers ont un travail à faire. Alors, moi, je ne prétends pas du tout que je vais faire ce travail-là. Moi, tout ce que j'essaye de faire, c'est juste
ouvrir... Un petit peu, c'est des fictions.
Ce sont des fictions, et j'essaye d'ouvrir des idées, l'imagination sur ce que pourraient les animaux, en me disant, tiens, il y a 50 ans d'ici, on leur refusait les langages et les langues. Il y avait une grosse controverse avec les linguistes. Aujourd'hui, on rit en voyant cette controverse. Donc, je me dis, tiens, pourquoi ne pas imaginer que dans 50 ans, on rira, mais facilitons le fait qu'on rit dans 50 ans, en disant, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu voir ce qui se passait? Alors, un joli exemple, c'est que je viens de lire un article d'un historien anglais qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui m'a posé une question très simple. Je vais essayer de le dire assez vite, sans perdre tout le monde. Il dit, tiens, comment se fait-il qu'il y a une énigme à la fin du 19e siècle, que pose d'ailleurs Darwin, à propos des rapports entre les pollinisateurs et les orchidées et nombre de plantes? Les abeilles mâles vont chercher du nectar chez beaucoup d'orchidées, et il n'y a pas de nectar. Pourquoi continue-t-il ou elle à y aller?
Parce que c'est beau, non?
Alors, ça, ce sera la réponse que Natacha Meyers et Carla Hustak vont produire dans Le ravissement de Darwin. Mais, toujours est-il, c'est à 19e, on ne sait pas très bien y répondre. C'est une énigme. Comment se fait-il que ces abeilles se font toujours berner?
Alors?
Et puis, entre 1916 et 1927, plusieurs scientifiques de plusieurs pays différents et indépendamment les uns des autres vont trouver la solution. En fait, l'abeille va copuler avec la plante. Ce n'est pas une question de nectar, c'est une question de sexualité. Et elles vont opérer ce qu'on appelle, les mâles, puisqu'il s'agit de mâles, opérer ce qu'on appelle des pseudo-copulations. Ou pas pseudo, je crois qu'il y a un petit peu de puritanisme de la part des scientifiques, c'est pas si pseudo que ça, comme le monde.
Restons dans l'amour, comme vous le disiez tout à l'heure.
Voilà. C'est bien. Mais c'est de l'amour aussi. Alors, comment est-ce qu'ils ont découvert ça? Pourquoi est-ce que plusieurs scientifiques, en quelques années, vont découvrir la solution de cette énigme? Et en fait, d'après cet historien, ce qui s'est passé, c'est que les scientifiques ont commencé à écrire des livres de vulgarisation à propos de leurs plantes et de leurs orchidées. Les romanciers les ont lus. Et eux-mêmes, ça leur a donné des idées, ça leur a nourri leur imagination. Et ils ont commencé, par exemple, comme H.G. Wells, à écrire des histoires avec des orchidées tueuses ou des orchidées qui ont des pulsions sexuelles. Enfin bref, des histoires où ce qu'on appelle l'agentivité des plantes est mise en avant. C'est-à-dire que les plantes deviennent animées, ont des intentions, ont une volonté délibérée. Et il semblerait, d'après cet historien, que cette conception des fleurs comme étant animées, vraiment animées en quelque sorte, ayant ce qu'on appelle des puissances d'agir, vont en retour influencer les scientifiques qui vont se dire, mais tout compte fait, c'est peut-être parce que les plantes les attirent, les fleurs les attirent, délibérément leur envoient des signes sexuels, que d'une certaine manière, ces abeilles mâles vont finir par se laisser attraper et vont s'occuper de la pollinisation. Donc ça montre en effet qu'il y a tout un passage, une porosité qui va se créer entre les romanciers et les scientifiques, qui vont faire que chacun se nourrit, mais qui vont faire que chacun va bouger aussi de sa propre position.
Mais aussi, si je vous suis bien, si je vous entends bien et que je vous lis bien, entre les différentes, j'allais dire, espèces du vivant, représentations du vivant, les humains, les plantes, les arbres, les différents... Est-ce que c'est ça que vous voulez montrer, cette idée d'une interdépendance entre les bactéries, les plantes, les animaux, les humains?
Alors, l'interdépendance, je pense que ce serait plutôt à Marie-Monique que je m'adresserais pour pouvoir en parler, parce que je pense qu'elle en parle vraiment formidablement. Moi, j'ai essayé, de mon côté, d'explorer des petites expérimentations fictionnelles, mais qui sont très influencées par la façon dont le réel, dont des choses se passent déjà dans le réel, parce que ces interdépendances, il y a des tas de gens qui les vivent. Je veux dire, il y a des éleveurs qui vivent ces interdépendances.
Il y a des chamanes.
Il y a des chamanes qui vivent. Alors, je veux dire, il y a plein de registres.
Je pensais à vos enfants, Ulysse. Moi, je suis en train de préparer un tournage en Colombie. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein. Les Indiens Kogi qui ont gardé... Donc, on est dans le nord de la Colombie, au bord de la plus haute montagne du monde, au bord de la mer, la Sierra de Santa Marta. Et bon, toute une histoire de ce peuple. Et les chamans du peuple Kogi continuent donc d'avoir cette relation extrêmement intime avec le vivant. Et vous savez comment ils sont formés, entre guillemets, les chamans? Ils passent 18 ans, de 0 à 18 ans, dans le noir, pour qu'ils ne voient pas par les sens. Vous savez, on a travaillé sur des questions du sixième sens, voilà, par les sens habituels, les cinq sens, et qu'ils développent un peu ce que font vos poulpes. Les sens, la
les
peau.
Les six enfants.
Les six enfants, oui, c'est la même chose. Donc, quand ils sortent de leur obscurité, alors ça doit être quand même quelque chose d'assez...
Mais alors, attendez, j'ai une question très simple pour toutes les deux. Comment faire pour que demain, ce ne soit plus seulement l'apanage des chamans,
oui,
ou alors des grands scientifiques, ou tout simplement des poulpes, des wombats et des araignées, mais que chacun d'entre nous, lecteurs de poésie qui sommes bercés par La Fontaine depuis notre plus jeune âge, écrivains, enfin, que tout le monde puisse prendre conscience de cette interdépendance.
Il faut repenser.
On décentre le regard.
Mais parce que je veux dire, chacun d'entre nous ici, c'est là-dessus qu'on travaille. Je veux dire, moi, je ne regarderai plus un arbre de la même manière après avoir lu le roman de Christophe.
Je vous confirme.
Oui. C'est-à-dire, je
ni un tardigrade après avoir lu le livre de Cobart, voilà. Ça c'est sûr.
Et puis, il y a une idée, par exemple, chez Didier, à laquelle je trouve qu'il est quand même assez jolie, c'est l'idée que les animaux nous comprendraient de mieux en mieux, mais par une forme de symbiose empathique ou quelque chose comme ça, que d'une certaine manière, ce que nous pensons leur arriverait d'une manière ou d'une autre. Donc, une forme de télépathie.
Mais qu'en pense justement l'éthologue et la philosophe que vous êtes?
Ah, mais c'est pas en tant que philosophe ou éthologue que je vais juger ce genre de choses. Moi, c'est comme philosophe amoureuse de la fiction. Je vais dire amoureuse des expérimentations que permettent les fictions. Parce que les fictions, ce sont des expérimentations.
Je voudrais revenir sur deux points, mais très bref, très brièvement, si vous voulez bien. C'est le sens du sacré chez les wombats.
Oui.
Là, c'est plus seulement le langage, c'est l'architecture. Oui. Le rapport des animaux à l'architecture qui, si je vous lis bien, selon vous, serait totalement modifié. Alors d'abord, on va voir à quoi ressemble un wombat, c'est ça. On trouve ça en Australie, en Tasmanie. Ça ressemble un peu à un ourson, à une marmotte. Et regardez surtout ce que ça produit, le wombat. Ceci, ce qu'on appelle pudiquement les fesses. F-E-C-E-S. Qu'est-ce que Vinciane Després, les crottes de wombat, viennent faire dans une fiction sérieuse et en même temps poétique sur notre rapport au vivant?
La poésie du fondement, si je reprends le sens littéral du fondement.
C'est pas faux.
Bien, comme philosophe, il fallait quand même que je m'y intéresse un peu. Mais je découvre, donc on m'avait demandé de travailler sur le wombat, et je découvre comme ça que les premières choses que je lis sur le wombat, qui est considéré comme peu social, donc on ne va pas dire, je découvre très peu de choses sur la socialité, c'est qu'il fait en effet des fesses cubiques. et que les premières recherches qui ont été faites à propos du wombat, enfin, les premières recherches qui ont un peu interpellé le grand public, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des fesses cubiques que, voilà, il a fallu résoudre. Et puis cette énigme a été résolue par une équipe de chercheurs, notamment Patricia Yang, qui a découvert en effet qu'on pouvait l'expliquer physiologiquement par le fait que les derniers centimètres de l'intestin, les derniers 8% de l'intestin, avaient une forme qui, d'une certaine manière, permettait à des fesses de devenir cubiques et de sortir. Et donc, la déshydratation des excréments se faisant juste à cet endroit-là, eh bien, ça faisait donc des beaux petits cubes qui font des belles petites briques.
Voilà, on apprend énormément de choses dans cette émission littéraire, notamment donc, voilà, sur les excréments cubiques des wombats. Voilà. Cela dit,
ça veut dire que les
quel rapport avec le sacré.
Voilà, les wombats construisent des murs avec ça, et ça, ils le font vraiment. Des murs, ils le mettent, des murs d'ailleurs qui ont permis,
il faut voilà,
quand même le signaler, qui ont permis aux autres animaux, pendant les incendies en Australie, c'est arrivé à plusieurs reprises, de découvrir où étaient les terriers des wombats et de pouvoir y aller s'y réfugier. Donc les wombats avaient accueilli des animaux d'autres espèces et ces murs donc, sont hyper importants pour marquer l'entrée du territoire. Mais si on imagine qu'on sort un peu de cette biologie utilitariste, je veux dire une biologie utilitariste, c'est chaque chose qui se fait doit avoir une fonction pour la survie en principe, donc marquer mon territoire, ça reste une fonction biologique. Et si on imagine des terrolinguistes associés à des terroarchitectes, et que les terroarchitectes sont comme les terrolinguistes, c'est-à-dire refusent de discréditer les animaux, refusent de laisser aux humains seuls la possibilité de faire de la littérature et tout, et que qu'est-ce qu'un terroarchitecte dirait des architectures animales? Eh bien, il se différencierait un peu des architectes, parce qu'il y a des architectes qui étudient très sérieusement les constructions animales, en disant, mais peut-être aussi que certaines architectures ont des valeurs symboliques, des valeurs rituelles.
Un peu comme des cairns, par exemple.
Voilà. Et à un moment donné, mes terroarchitectes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ça ressemble quand même sérieusement à des cairns. Et donc, s'il y a des cairns, pourquoi les humains ont-ils fait des cairns jusqu'à présent? Ça a des valeurs religieuses, c'était probablement adressé à des divinités, à des ancêtres ou à des esprits, on va imaginer que les wombats, d'une certaine manière, seraient exceptionnels dans le monde animal, puisqu'ils auraient, en témoigne ces cairns, le sens religieux.
Sauf que ce n'est pas exceptionnel, nous
écrivez-vous. Alors, ce n'est pas exceptionnel, et ça, c'est une stratégie narrative dont j'ai voulu garder la surprise, enfin, ma propre surprise, c'est que j'ai écrit une première version du wombat que j'ai fait relire à des amis, dont mon doctorant Thibaut de Meyer, qui est beaucoup mieux informé que moi sur l'actualité éthologique, et il me dit « Tu ne peux pas faire une exception wombat parce que les chimpanzés y étaient déjà. » Donc, tu dois... Et donc, je suis allée lire et j'ai découvert qu'un historien des religions très sérieux avait dit non, visiblement, il y a plein d'arguments qui étaient l'idée que les chimpanzés sont religieux. Il publie sans
délai. Alors attendez, religieux ou sens du sacré? Et jusqu'où vous, d'ailleurs, alors pardon, je vous remets la casquette de la philosophe, jusqu'où prenez-vous au pied de la lettre l'idée, sans tomber dans l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait qu'on ait envie de prêter aux animaux nos propres sentiments, notamment le sentiment du sacré, jusqu'où pensez-vous que wombat et chimpanzés peuvent réellement avoir ce sens du sacré au point de construire des monuments funéraires?
Alors, pour moi, ce que les chercheurs ont ramené jusqu'à présent me paraissait très, 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 très convaincant, d'une certaine manière, parce que, alors c'est la deuxième découverte, il faut quand même que je le signale, c'est qu'on a découvert 3 ans après cette publication d'article qu'il y avait plusieurs sites où on voit des chimpanzés ayant construit des cairns, c'est-à-dire qu'ils mettent des pierres, parfois même très lourdes, dans des troncs et que ce sont des sites très différents, dans des pays africains très différents, on découvre plus ou moins la même configuration avec des rituels.
Et donc, avec une orientation géographique aussi.
Et puis ils viennent faire des rituels, donc taper, faire ce qu'on appelle les panhout, devant l'arbre, lancer les pierres, taper les pierres, danser, etc. Et donc, visiblement, il y a quelque chose qui échappe. Ou bien ils sont complètement cinglés, ou bien, mais collectivement complètement cinglés, ou bien il y a quelque chose qui échappe, je vais dire, à la façon dont on imaginait que les animaux étaient simplement préoccupés du présent, de l'ici et maintenant, de la matérialité du monde et tout. Alors, est-ce que les chimpanzés sont religieux? J'espère qu'ils sont polythéistes, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Voilà, et que les wombats, je suis sûre que les wombats...
Il n'y a pas de djihadistes chez le wombat.
Les wombats sont polythéistes, ça c'est certain.
Chimpanzés.
Voilà.
Moi, j'ai eu un sentiment très différent de lecture de votre livre. Parce que là, on a une discussion assez technique. L'animalité, de connaissances, de progrès sur l'être, etc. Moi, j'ai vu une dimension très, que je vous ai dite en vous croisant, très littéraire, de rapport à Pérec, de rapport à Borges, de rapport au rapport de Brody.
Quel est-il, ce rapport?
C'est-à-dire de se dire, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est aussi un très grand jeu d'accepter de prendre des choses véritables, des choses fausses, des sciences qui ont l'air vraies. Moi, je suis un mauvais élève. J'avais petit travail, petit résultat en SVT, en physique, etc. Je découvre tout. Donc, je trouve ça à la fois magnifique et je me dis, merde, est-ce que je me fais avoir? Et qu'en fait, tout ça, un peu comme chez Borges ou comme chez Pérec, il y a des faux rapports. Et même les remerciements sont un peu troubles. Tout d'un coup, vous remerciez des Français qui ont des noms anglais.
Mais Christophe Bataille, c'est ça justement qui donne tout son sel à la lecture du livre. C'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. Et tout est vraisemblable.
Oui, tout à fait. Mais c'est un jeu.
Peut-être tout possible.
C'est aussi un jeu littéraire.
C'est-à-dire
c'est un jeu littéraire.
D'une certaine manière, le poulpe inspire finalement le travail littéraire dans ce cas-ci.
Et ben voilà, on revient au poulpe.
Le poulpe est le créateur par excellence et le menteur par excellence. Hein, c'est Flusser qui disait ça, que pour nous, la philosophie, le contraire de la vérité, c'est l'erreur. Pour le poulpe, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et c'est par le mensonge qu'il philosophe. Donc le poulpe est un philosophe du mensonge. Tout ce qui l'intéresse, c'est le leurre. Duper les autres, créer des faux semblants, je veux dire, tout est prétexte à l'heure chez les poulpes.
Et ça, c'est extraordinaire. Le vrai Dieu, c'est le poulpe.
Le vrai Dieu,
le vrai God.
Mais avec huit bras, donc c'est extraordinaire.
Mais moi, j'ai trouvé ça magnifique, l'idée qu'en fait, il y a peut-être une nouvelle extinction, la sixième, peut-être la fin des temps. Moi, je trouve qu'on sent une très grande inquiétude dans tous nos livres, mais qu'il y a la drôlerie, qu'il y a de l'imagination, qu'il y a du jeu. Chez Digne von Kovelaar, c'est encore plus fort. Il y a de la fabulation, il y a un désir de revenir à ça. Et j'ai vu un signe très, très, très positif.
Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation aux éditions Actes Sud, sous la signature donc de Vinciane Després. Alors, ce n'est pas parce que la menace est sérieuse qu'il faut, comme disait Christophe Bataille, se prendre au sérieux. Voici maintenant une comédie, mais qui a le mérite de mieux faire ressortir les problèmes et peut-être aussi les solutions. Le pouvoir des animaux, roman, vient de paraître chez Albin Michel sous la signature de Didier van Kovelaert. Alors, c'est simple. Prenez une toute petite bestiole, le tardigrade, 1 mm seulement, en voici un, congelé depuis 130 000 ans dans l'Arctique et qui est ramené à la vie. Prenez maintenant une très grosse bestiole, le mammouth laineux, tiens, disparu il y a 4000 ans, mais dont on découvre encore des carcasses congelées en Sibérie. Clonez-le à l'éléphant d'Asie. Eh bien, chacun de ces animaux détient le pouvoir d'améliorer la santé de la planète, pour ne pas dire, avec vous Didier van Kovelaert, de sauver l'humanité. Ce roman nous entraîne des glaces de l'Arctique à la toundra soviétique et à Pléistocène Park. Tiens, j'ai vérifié, ça existe vraiment, Pléistocène Park? C'est saisissant, ça.
J'aime bien quand les gens lisent le roman, on se dit « Oh, quelle imagination il a, imagine ça. »
On se dit « Ça y est, il est encore un petit peu fou, le Didier van Kovelaert. »
Et puis...
Pléistocène Park. Puis alors, vous vérifiez...
Eh oui, il y a des outils aujourd'hui, vous tapez Pléistocène Park et vous vous retrouvez dans le...
Qu'est-ce que c'est
du roman. Eh bien, on a parlé justement des interactions entre les scientifiques et puis les fous d'imaginaire que nous sommes, nous, romanciers. Sergueï Zimov, le plus grand chercheur écologiste russe, plus de publications, il y a 20 ans, crée cette chose complètement dingue. Il crée Pléistocène Park.
Qui jusqu'à présent était juste dans, pardonnez-moi, un film qui s'appelle L'âge des glaces. Hein.
Oui, ben, en Sibérie, c'était juste... Bon. C'est un endroit où il a décidé de remettre les descendants de la faune de l'âge de glace, c'est-à-dire ceux qui sont encore disponibles, les bisons, les bœufs musqués, des chevaux sauvages,
les rennes,
etc.
Ouais. Et pour quelle raison?
Parce qu'en fait, le grand problème, sans doute le problème numéro un dans l'urgence des alertes climatiques, c'est le dégel du permafrost, c'est-à-dire ce sol constamment gelé jusqu'à présent, qui, on le voit perpétuellement dans les actualités, se dégèle et libère des quantités terribles de gaz carbonique, de méthane, avec des explosions, et puis des virus inconnus qui dorment là-dessous. Et pourquoi est-ce que ça se libère? Pourquoi ça dégèle? Parce qu'il n'y a plus d'animaux. Parce que l'homme a fait disparaître les animaux. Et lui, en réintroduisant ces animaux, il a réussi sur ces 20 km² de Pléistocène Park, en 20 ans, à refroidir le sol de 19 degrés. Donc, pour une fois, on a une solution.
Ouais.
Oui. Pourquoi? Parce que la neige...
Le martèlement, hein, c'est ça?
Voilà, la neige qui n'est plus remuée par les animaux agit paradoxalement comme une couche d'isolant thermique. C'est-à-dire qu'en plus, les forêts qui sont des forêts mortes, Les feuilles qui ne donnent plus rien, mais les feuilles tombent et les feuilles sombres alimentent la chaleur, alimentent la chaleur. Il n'y a plus d'herbe, parce qu'il n'y a plus d'animaux à la belle saison. Donc les mousses sont toutes envahies, donc l'herbe n'absorbe plus l'humidité. Donc tous ces facteurs dus à l'absence d'animaux créent ce problème. Remettre les animaux...
On voit, hein, Didier Van Kovelaert, comme dans le livre de Marie-Monique Robin, qu'il faut penser le rapport de cause à effet, ouais, à chaque fois, pour comprendre là où on en est aujourd'hui. Si on repeuplait la toundra, on obtiendrait donc le moyen d'enrayer...
Oui. De freiner, parce que directement...
C'est en train de se faire. Alors, le freiner, et pour l'enrayer, parce que c'est très bien, ces animaux que je vous ai cités.
Il en faudrait un frigo.
Mais il en manque un. Celui qui était le roi de la steppe, ouais, c'était le mammouth laineux, qui lui, en plus, aurait les moyens de déraciner ces forêts mortes pour que la vie reparte avec les graminées, avec de nouveaux arbres, comme dans votre livre, à un moment donné. Il faut accepter la fin d'un cycle végétal, mais il faut permettre au cycle suivant de sortir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Donc le mammouth qui fait à peu près 6 tonnes aurait la possibilité, à force de marteler le permafrost, de permettre, au bout de quelques années quand même, à une forêt de ressurgir.
Oui, déjà, et en remuant la neige et tout ça, il assure l'arrêt de ce dégel. Et puis, évidemment, on ne va pas faire l'Amazonie en Sibérie, tronçonner les arbres et les brûler pour en faire repousser d'autres. Il n'y a guère que le mammouth qui permet ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a, comme dans mon roman, des projets de clonage de ce mammouth aujourd'hui dans plusieurs universités, au Japon, à New Delhi.
Pourquoi le cloner? D'abord, il faudrait déjà le faire revivre.
Bah oui.
Vous racontez, page 236, Marie-Monique Robin, je le note, exactement ce que Didier Van Kovelaert met en roman. Ouais. C'est-à-dire qu'on a retrouvé encore récemment des carcasses de mammouths congelées. Ouais. 4 virus ont été sortis de cette carcasse.
Ah oui. Dont un de hépatite B très virulent, pour lequel on n'a aucune... Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui se passerait, Didier Van Kovelaert, si on clonait un mammouth décongelé à un éléphant d'Asie?
Alors, il faut savoir que l'éléphant d'Asie est compatible à 99% avec le mammouth. D'où le projet qui, aujourd'hui, est le plus avancé, c'est celui du professeur George Church, qui a inspiré un peu mon héros Frank, à l'université d'Harvard.
Donc, tout ça est réel?
Oui, c'est un clonage hybride, c'est-à-dire que d'une part, on a retrouvé de l'ADN en très bonne qualité de conservation, évidemment grâce à cette conservation dans la glace. Et puis, il y a les moyens aujourd'hui numériquement de réparer l'ADN et de le numériser, de recombiner avec l'ADN de l'éléphant d'Asie, de manière à lui donner les prestations dont on a besoin pour ce projet.
Alors, qu'est-ce,
fou.
Qu'est-ce qu'on aurait?
Le volume, la résistance au froid énorme, les caractéristiques de ces poils rigides d'un mètre de long, ces 10 cm d'épiderme qui assurent cette résistance au froid. Et donc, d'après les communications de l'Université d'Harvard, c'est très proche du résultat. Et en fait, lorsque j'ai découvert ces projets autour du mammouth laineux, ça m'a fourni ce qui me manquait au casting de mon roman. Parce que le tardigrade est entré dans ma vie il y a plus de 20 ans.
Ah. Allez, parlons du tardigrade.
On
se demande comment les arbres rentrent dans la vie d'un écrivain, comment le poule prend dans la vie d'un philosophe. Comment le tardigrade est-il entré dans votre vie?
Alors, moi, c'était plus classique. C'était un reportage dans Match. C'est en fait la première scène de mon roman, ce glacionaute, cet explorateur des glaces qui plonge à 200 mètres dans ces puits éphémères que creuse le dégel, et donc dans les archives de la Terre. Par la loi des strates, 200 mètres, c'est 130 000 ans. Et là, il fait un prélèvement, et il le remonte. Quand il le met dans la tente, il attend que ça décongèle, il regarde au microscope, et parmi des poussières d'étoiles et des bactéries inconnues, il trouve cette petite bestiole qui se met à bouger les pattes.
C'était en 1997.
Ouais, et qui se met à marcher dans une flaque. Je tombe là-dessus. C'était juste la fin de l'article.
Vous ne redoutez pas Jurassic Park?
Non, ça...
C'est-à-dire, tout est sous contrôle, notre science est merveilleuse.
C'est un autre problème. Jusqu'où? Si vous voulez, là, c'est l'urgence climatique qui peut battre un peu en brèche les arguments tout à fait légitimes de méfiance en bioéthique par rapport au fait de recréer une espèce. En l'occurrence... J'aime bien le verbe « déséteindre ». Il s'agit de déséteindre le mammouth. Ce n'est pas une espèce qui a disparu par l'évolution, c'est l'homme qui l'a fait disparaître.
Mais pardonnez-moi de revenir sur la question de Christophe Bataille. Ne redoutez-vous pas l'effet pervers Jurassic Park, c'est-à-dire que même en déséteignant le tardigrade et le mammouth, tout à coup, les virus qu'évoquait Marie-Monique Robin et qui sont présents, congelés dans ce permafrost sur la carcasse de l'un ou de l'autre, deviennent une pandémie nouvelle.
Pardon, le problème de la pandémie, c'est les milliards de virus des pandémies d'antan qui sont prisonnières de ce sol qui, aujourd'hui, se décongèle. Ce n'est pas les 2-3 virus qui se trouvent dans une carcasse de mammouth comme n'importe quelle autre carcasse, si vous voulez. Ceux-là, on peut brûler, ce n'est pas le danger. Le danger, c'est quand ça se répand dans l'atmosphère. Mais de toute façon, bon... C'est pas moi qui clone, hein. Moi j'ai fait le roman. Donc ça, il faut demander au professeur George.
Vous le gardez, hein. C'est pas moi qui clone, moi j'ai écrit un roman, on verra bien ce qui se passe.
Ma responsabilité. Simplement, moi je donne à voir.
Quelle est la responsabilité Alors pardonnez-moi, mais ça c'est une vraie question. Et tous vos livres la posent, Didier Van Cauwelaert. Quelle est la responsabilité du romancier quand il s'intéresse comme ça à la philosophie,
écoutez,
aux sciences, au monde qui l'environne
En termes de retombées, puisque c'est ça aussi, chose qui m'a fait très plaisir, il y a eu plein de dons qui sont arrivés pour Pleistocène Park. Donc, le fait de faire connaître quelque chose qu'on croit, une invention de ma part, là encore, je m'inspire de la réalité, et le roman permet de sauver un peu une réalité, parce que le Pleistocène Park est un seul centre privé au monde de cette importance. Il n'y a aucune subvention. Poutine tolère, mais ne subventionne pas. Et simplement, ce sont les universités du monde entier dont les chercheurs viennent travailler sur cet écosystème, ce travail extraordinaire et unique. C'est l'hébergement, l'accueil qui fait les rentrées d'argent. Pandémie oblige, un an de Covid, aucune rentrée financière. Donc là, tout à coup, bon, moi-même, j'alimente, mais mes lecteurs aussi.
Alors, on a parlé du mammouth. J'aimerais que vous nous disiez quelles sont les particularités du tardigrade, ce petit animal d'un millimètre à huit pattes, la nano-saucisse, comme l'appelle avec beaucoup de mépris votre mammouth, puisque c'est le mammouth qui parle. Ah oui, il faut que je vous prévienne. Dans le livre de Didier Van Cauwelaert, ce n'est pas un narrateur ou une narratrice. Non, ça, c'est pour l'histoire d'amour. C'est le mammouth qui s'exprime ou le tardigrade, au choix. Et évidemment, ils ne se portent pas l'un et l'autre dans leur cœur.
Pourquoi ?
Quelle est la propriété du tardigrade ?
Oui, d'abord, parce que tous les deux interfèrent dans l'histoire d'amour entre leurs deux chercheurs respectifs. Wendy, qui a consacré sa vie au tardigrade, et Frank, qui a découvert ce tardigrade, mais qui, par ailleurs, quand il n'est pas plongé dans les glaces, est le généticien qui est sur le point de cloner le mammouth. Et en fait, il va tromper le mammouth avec ce tardigrade dont les facultés le passionnent et aussi par l'intérêt qu'il éprouve pour cette jeune femme, pour Wendy. Le tardigrade, s'il réussit à repartir en vie après 130 000 ans, c'est que lorsque les conditions extérieures ne lui paraissent plus propices à sa survie, il a le pouvoir de se lyophiliser, comme nos cafés solubles et nos soupes en sachet. Il vide 99% de son eau. Il fabrique un sucre antigel à la place. Et là, il peut durer indéfiniment. On pensait que c'était des centaines d'années. Ça a été 130 000 ans prouvé grâce aux glacionautes dont je parlais tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'il est né il y a 130 000 ans. Peut-être qu'il était là depuis des millions d'années plus. Et il a un an et demi de vie en termes de jours ouvrables, à peu près. Mais c'est le seul animal qui, comme les bactéries, a développé ce pouvoir de la dormance.
Mais est-ce qu'il y a réellement des protéines qui permettraient, par exemple, je décidais je prends Christophe Bataille là, comme cobaye, et je me dis que je pourrais faire un Bataille augmenté avec de la protéine de tardigrade. Alors, est-ce que ça le prémunirait réellement de l'Alzheimer ?
En tout cas, ça guérirait les conséquences de l'Alzheimer. La protéine qui lui permet de résister à tout, c'est-à-dire le zéro absolu, moins 273 degrés, 200 degrés de température, les pressions les plus fortes au fond des océans, le vide spatial, on a mis en orbite des tardigrades soumis aux radiations.
On a mis en orbite des tardigrades.
Oui, dans la mission Photon M3. Oui. Et aujourd'hui, on en a lâché sur la Lune.
Voilà.
Et ils sont sur la Lune, on suppose qu'ils sont encore vivants. Donc tout ce qui lui permet ça, y compris de résister à 570 000 rads de rayon X, là où l'être humain meurt à 500 rads, eh bien c'est une protéine qu'on a appelée la DSUP. Et cette protéine, en 2020, on l'a insérée dans des cellules humaines in vitro qu'on a bombardées de rayons toxiques et qui ne sont pas mortes. Ah. Donc, c'est compatible avec nos cellules.
Pour l'humanité.
Bien sûr. C'est-à-dire, le tardigrade, ce n'est pas l'immortalité qu'il va nous donner. C'est un renfort de résistance et un... voilà, donc c'est un espoir complètement fou, ouais. mais réel.
Vinciane Després, le livre, le roman de Didier Van Cauwelaert s'intitule « Le pouvoir des animaux ». Est-ce que la réponse à l'effritement, pour ne pas dire l'effondrement programmé des sociétés humaines, est le règne animal ou le pouvoir des animaux ?
Non, j'irai pas jusque-là. Alors bon, c'est vrai que c'est... Je veux dire, le roman met en scène une solution proposée, mais je dois quand même dire que moi, c'est un vrai problème, cette solution telle qu'elle est proposée par les clownistes, Georges Schorch et compagnie, parce que c'est comme si c'était la solution, en ignorant complètement qu'il y a quantité d'autres solutions qui seront peut-être moins coûteuses.
En l'occurrence, là, il n'y en a pas d'autres pour éviter la catastrophe du dégel du permafrost.
Et moi, je vois aussi le même. Je n'en sais rien.
N'importe quelle entreprise humaine, je veux dire, pour faire baisser les causes de tout ça, il faudrait des centaines et centaines d'années. Et là, c'est aujourd'hui. La catastrophe arriverait, selon les prévisions des scientifiques, les pires, dans 100 ans ou moins, quoi. Donc, c'est aujourd'hui. Et quand on voit les résultats, ce chiffre de 19 degrés de refroidissement du sol grâce aux animaux, ça, c'est imparable. Et aujourd'hui, on sait que ce projet va débuter en Alaska, dans tous les autres endroits où se pose ce problème. Donc, voilà, le pouvoir des animaux, c'est quoi ? C'est pas de dire, nous, on peut rien faire, faisons confiance. C'est d'abord ce pouvoir, nous, de nous rendre plus humains dans le rapport qu'on a grâce au rapport qu'on a avec les animaux.
Vinciane Després.
C'est un peu difficile parce que, je ne sais pas exactement de quoi on parle quand on parle du pouvoir des animaux. Et c'est là. Donc ça veut dire que autant je ne me sens pas à l'aise avec la solution, même si vous la défendez extraordinairement bien et même si dans le roman elle apparaît.
Vous êtes plus à l'aise avec la protéine du tardigrade.
Peut-être même pas. Bon, c'est vrai que...
C'est toujours une vision techno-centrée, voilà, technologique, finalement, des problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Et qui va encore profiter, je veux dire, à qui va soigner du cancer, qui va soigner de l'Alzheimer, qui va profiter du tardigrade, hein. Bon, c'est pas tout le monde.
Oui, moi, j'ai un sentiment très différent, c'est que ce qui m'a touché profondément, ce qui, je trouve, touchera le lecteur, c'est la capacité de la fable. C'est-à-dire qu'il y a de la drôlerie, Wendy, Franck, qui appelle son invention Franquette. À court terme, évidemment, ça ne sauve pas la Terre. Mais il y a cette capacité au corps à dire la tradition de La Fontaine, de la moquerie, du jeu, elle est toujours là. Bien sûr que c'est peut-être la fin des temps. J'ai 4 enfants, je sais quoi leur dire le soir. Mais il y a aussi cette
drôlerie-là. Mais rions tout de même et lisons quand même.
Et moi, je pense que c'est un message magnifique pour les romanciers, les créateurs, de dire que le combat, il est aussi poétique. Il n'est pas que dans la technologie.
Et alors là, Christophe me permet d'aller vers ce que j'essayais de dire en balbutiant. C'est que, par exemple, le pouvoir des animaux dans le livre de Didier, c'est ce pouvoir extraordinaire de comprendre les humains. Et ça, c'est quelque chose de très joli et qui n'est pas du tout, je veux dire, qui est évidemment un tout petit peu, d'une certaine manière, qui est imaginé, d'imaginer les animaux aussi clairement télépathes, c'est-à-dire pouvant saisir des pensées, saisir des émotions aussi finement et tout. Bon, on sait bien que là, c'est l'art du fabulateur, c'est l'art du narrateur, c'est l'art du conteur. Mais en même temps, quand on entend, moi j'ai entendu des éleveurs dire, quand je leur demandais c'est quoi la différence entre les hommes et les animaux, les humains et les animaux d'après vous, dire, y a une chose qu'on peut vous dire, c'est que nos vaches, elles nous comprennent beaucoup mieux que ce que nous les comprenons.
Le pouvoir des animaux de Didier Van Cauwelaert, c'est un roman, une fable, aux éditions Albin Michel. On va passer de la fable, si vous voulez bien, à l'enquête journalistique auprès d'une communauté qui est la communauté scientifique un peu malmenée depuis cette pandémie. Marie-Monique Robin, réalisatrice de documentaires. Alors d'habitude, vous travaillez dans l'autre sens, vous faites un film et puis ensuite le livre du film. Là, vous avez, pandémie oblige, commencé par le livre et je dois dire que c'est une divine surprise parce que La fabrique des pandémies est une enquête saisissante, remarquable, qui se lit vraiment comme un roman. Sauf que ce n'est pas un roman. Vous nous direz peut-être qu'il y a aussi une dimension de fable dans ce livre. Travail qui rassemble les paroles et les travaux des meilleurs scientifiques, je le disais, mais de diverses disciplines et qui montrent plusieurs choses. Alors, d'abord, que les périls pandémiques étaient de longue date bien identifiés par les chercheurs. Donc, on savait. Ensuite, que les activités humaines, en précipitant l'effritement de la biodiversité, ont créé les conditions d'une épidémie de pandémie. Et puis enfin, qu'il existe des solutions. Et c'est surtout cela que nous allons évoquer, si vous voulez bien. Comme le disait Didier Van Cauwelaert, cherchons les points de solution. On est loin du discours anxiogène, je le dis, hein, c'est assez bizarre du reste, parce que le constat est sans appel tout de même. Ouais. La destruction des écosystèmes par la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle, la globalisation économique, eh bien, tout cela menace directement la santé planétaire. Et si rien n'est fait, eh bien, d'autres pandémies vont suivre, c'est inéluctable. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'enquêter sur ces liens entre biodiversité et pandémie ?
Alors, ça fait longtemps que je m'intéresse à ces questions environnement, santé, mais en fait, pour dire la vérité, je suis tombée sur un article du New York Times d'un collègue, David Quammen, qui est un journaliste scientifique. Et le titre, c'était « We made the epidemic ». Je dis « Waouh !» C'était fin janvier 2020.
Mais nous avons créé l'épidémie.
Voilà, nous avons créé l'épidémie. Et moi, vous savez, je suis dans la vie, dans une vie parallèle, je tricote beaucoup.
Ah, vous tricotez?
Oui, voilà, je tricote.
On a tout eu ce soir. On a eu le poulpe, on a eu le wombat. Maintenant, Marie-Monique Robin qui tricote.
Et moi, j'aime tirer la pelote. Et ça, c'est mon activité favorite dans la vie. Vous voyez, quand je... Voilà. Et là, il y avait évidemment des scientifiques qui étaient interviewés dans l'article de David. Et voilà. Et voilà comment je suis tombée sur un premier, puis un deuxième, qui m'a amené à quelqu'un qui je rends hommage dans ce livre. De toute façon, je leur rends tous hommage. À tous, hein, tous ces scientifiques. Qui s'appelle Serge Morand.
Alors, remarquable préface de Serge Morand, qui signe également, je le signale, des encarts dans votre livre, qui sont des encarts techniques, qui donnent, je trouve, vraiment une approche en miroir formidable.
Tout à fait. Donc, chercheur au CNRS, CIRAD, qui est un centre de recherche basé en Thaïlande. Et c'est dans la vie, il se passe des trucs, parfois, c'est assez dingue. Quoi. Moi, je trouve sur Internet, évidemment, c'est facile, je l'appelle, Skype, parce qu'évidemment, en confinement, entre-temps, on est en février 2020, donc j'ai commencé à faire mes recherches, tout ça. Et il me dit, waouh, super que tu m'appelles. J'ai dit, ah bon ? Oui, j'ai vu Le Monde sur le Monsanto et je me suis dit...
Ça, c'était un de vos précédents documentaires.
Un de mes précédents documentaires, un livre aussi. Il m'a dit, j'aimerais tellement qu'elle fasse la même chose qu'elle a fait dans ce travail sur Monsanto. C'est-à-dire, à l'époque, c'était de rapprocher tous ces lanceurs d'alerte qui étaient sur toute la planète, qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et donc, du coup, il y a une cohérence, vous voyez, qui se crée. Parce qu'à un moment, voilà, ce n'est plus une petite histoire individuelle ici et là, c'est voilà, il y a une cohérence. Donc, il me dit, tu sais, on est très nombreux parmi les chercheurs à dire, attention, une grande pandémie va arriver.
Depuis combien de temps ?
Une vingtaine d'années.
1989, hein, vous datez vraiment de la conférence de Washington en 1989, le moment où, en réalité, on sait.
On sait parce qu'il y a eu le sida. Et le sida, je rappelle que le sida est une zoonose. Une zoonose, c'est quoi ? C'est une maladie transmise par les animaux aux humains. On l'oublie. Mais en fait,
quel lien peut-on faire entre l'apparition du sida début 1981, l'apparition d'Ebola quelques années en réalité plus tôt, et le Covid-19? Est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire, Marie-Monique Robin, qu'en réalité, c'est l'activité humaine qui a provoqué l'apparition de ce qu'on appelle ces maladies émergentes?
Tout à fait. Donc ça, c'est ce que démontrent ces scientifiques, 62 scientifiques dans mon livre, hein, qui sont zoologues, virologues, épidémiologistes, comme vous l'avez dit...
Et du monde entier,
des disciplines différentes, mais ils ont en commun quand même qui se revendiquent d'une nouvelle discipline, enfin, qui existe aux États-Unis depuis un certain temps déjà, la disease ecology, c'est-à-dire l'écologie de la santé, qui a cette vision holistique qui fait qu'on a besoin de transdisciplinarité, son excellence dans chaque domaine, hein, on a besoin d'excellents virologues, mais qu'on travaille ensemble pour faire face à des défis énormes qu'on n'avait pas eu avant au XXe siècle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent tous ? Ils disent exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la première cause et la première de toutes les causes qui est donc à l'origine de ces trois maladies, pour prendre que celle-ci, le sida, Ebola, 1976, je rappelle que c'est une maladie très dangereuse, il y en avait encore une récemment, hein, une épidémie d'Ebola, un virus qui vient donc là d'un primate, hein, transmis ensuite aux humains, et on meurt à 80%, donc vous voyez, à côté de la Covid qui tue moins de 0,1% des gens, vous voyez. Voilà. Et puis, la Covid, c'est qu'à l'origine, on a déforesté quelque part et on a donc mis en contact des humains avec des agents pathogènes qui sont majoritairement présents, c'est tout à fait naturel, dans les grandes forêts magnifiques primaires du monde, parce que c'est là où il y a une grande biodiversité animale, végétale. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de micro-organismes, parce que finalement, des virus, ce sont d'abord des micro-organismes. Voilà, c'est normal. Et donc, quand on déforeste, les études sont très précises là-dessus. On voit comment... Deux ans après, pour Ebola, par exemple, une activité de déforestation, ça s'est très bien démontré. Deux ans après, il y a une épidémie d'Ebola.
Voilà. Alors, si vous le permettez, parce que votre livre a ceci de remarquable, c'est que dès qu'on se pose une question, vous apportez la réponse de façon claire. Page 73, il y a une page que je voudrais que tous ceux qui nous regardent ce soir lisent. Vous allez voir, elle est très courte, elle est saisissante. Lisez-la, faites-la lire. Je me permets, si vous voulez bien, Marie-Monique Robin, c'est Rodolphe Gozlan qui parle et qui vous raconte... En effet, l'abattage des arbres a pour effet d'ouvrir de la lumière sur les milieux aquatiques. Ce qui permet aux oiseaux de chasser plus facilement les poissons, qui eux-mêmes se nourrissaient de petits insectes invertébrés, lesquels, du coup, faute de prédateurs, vont se mettre à pulluler. De plus, l'arrivée de lumière provoque une augmentation de la température et une baisse de l'oxygénation de l'eau, ce qui modifie les conditions physico-chimiques du milieu aquatique. Cela favorise le développement de micro-algues, qu'on appelle périphytons, où la bactérie est naturellement présente. Les petits insectes vertébrés broutent ces micro-algues et se chargent en mycobactéries, car ils sont ce qu'on appelle des hôtes compétents, c'est-à-dire aptes à héberger l'agent infectieux. Progressivement, la déforestation transforme l'écosystème en réduisant sa biodiversité. Apparaît une gadoue constituée de biofilms de micro-algues que l'on ne trouve pas dans les sites ombragés. Et ça continue comme ça sur une page. C'est-à-dire que la cause a un effet, sauf que la cause première, si je la remonte...
C'est l'abattage de l'arbre. Donc, Rodolphe, j'étais
avec... Mais par qui ? Par nous ?
Par nous.
Par les hommes.
Rodolphe en Guyane.
3-4 ans, on a l'impression.
Oui, alors en fait...
Ça va très, très, très vite. Non, voilà. C'est pas 20 ans.
C'est 2 ans.
C'est 2 ans.
2 ans.
Oui.
C'est ça qui est stupéfiant.
Et j'étais avec Rodolphe en Guyane récemment, parce que je suis en train de tourner donc, le film qui va accompagner ce livre, et on est allé voir ça, justement, dans cette magnifique forêt primaire, où quand on arrive, on se dit « Ah, il y a des moustiques partout, enfin, il y a une grande biodiversité, il y a 650 moustiques ». Mais non, le fait qu'il y a 650 moustiques, par exemple, il n'y en a que deux parmi les 650 qui peuvent nous embêter, nous, les humains, hein, les anopheles qui donnent le paludisme, ou les Aedes qui donnent des maladies pas sympas, hein, chikungunya, zika, fièvre jaune. Sauf que quand vous avez tous ces insectes, tous ces moustiques, eh bien, il y a un effet de dilution, parce que l'impact, il n'y en a pas un qui est dominant, vous comprenez ? Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je n'avais pas compris. Si vous voulez, la biodiversité, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important, mais je disais un petit peu, comme vous savez, comme pour les bobos écolos à vélo, que je suis, et c'est-à-dire que je ne voulais pas que les pandas disparaissent. Que je voulais... mais, donc, évidemment, côté émotionnel, hyper important. Moi, vous voyez, je n'ai pas envie...
Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous avez ajouté à ce côté bobo écolo ?
Ah ben,
une sorte d'égalité, on dirait, non ?
Comment ?
Une sorte d'égalité, on dirait, non ?
Oui, alors d'abord, j'ai compris que la biodiversité, c'était... Alors, je suis obligée de reprendre une parole, excusez-moi, parce que ce n'est pas de moi, donc je suis obligée de citer ma source, du pape François, qui s'appelle... il a parlé de la maison commune, dans l'encyclique, là, on l'a aussi. Et la maison commune, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on habite tous dans la même maison.
J'aime bien le pape François, mais enfin, Thoreau l'avait déjà dit, la maison commune, hein, c'était au 19e siècle. C'est un écrivain,
oui,
c'est
peut-être... Mais d'accord, enfin, c'est la maison commune...
D'accord.
Oui, d'accord, on peut dire Thoreau, effectivement. Mais là, c'est récemment, voilà. La maison commune, c'est-à-dire qu'on est dedans, on habite dedans, et on est tous interconnectés, et on n'est pas, nous les humains, au-dessus de des autres espèces. C'est ce que j'aime bien aussi dans
votre livre. Interconnectés ou interdépendants ?
Les deux. On est interconnectés et interdépendants. Ce que disent ces scientifiques, c'est qu'on ne peut pas dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux domestiques et humains, des domestiques et sauvages, et la santé des humains. Que tout est interconnecté. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre ces mécanismes, et c'est ça qu'ils ont démontré. L'effet dilution dont je viens de parler, c'est vraiment un effet qui a été démontré scientifiquement, c'est-à-dire que plus on a de biodiversité, plus on réduit le risque infectieux, alors que dans les lieux où il y a une grande biodiversité, il y a beaucoup d'agents pathogènes potentiels, vous comprenez, c'est complètement contre-intuitif. Mais en fait, vous voyez, ça maintient à bas bruit ce risque, parce qu'il y a une grande diversité. J'ai donné le cas des moustiques. S'il y a 650 moustiques, il n'y en a que deux qui nous embêtent. Si, évidemment, il y a cette grande diversité, on ne sera pas piqué par celui qui peut nous embêter. Et ça, c'est absolument extraordinaire de comprendre ça. Ça remet aussi de la cohérence, parce que, comme vous l'avez dit, ce sont nous, les humains, cette petite espèce parmi d'autres. Hein, alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait qu'on rabatte un peu notre caquet, n'est-ce pas ? Notre caquet d'humain, un petit peu là. Voilà. Eh bien, c'est nous. C'est ce que vous avez dit. Déforestation, première chose. Ensuite, l'élevage intensif joue un rôle très important parce que ça peut jouer le rôle d'amplificateur, évidemment, de ces agents pathogènes qui passent des réservoirs animaux. Alors, c'est tout un vocabulaire, mais en fait, c'est facile à comprendre. Hein. Donc, par exemple, les rongeurs, les primates et les chauves-souris. Alors, moi, je suis tombée amoureuse des chauves-souris parce que vous, dans votre livre, ils sont amoureux du tardigrade et tout ça.
Vous, c'est la chauve-souris.
Ah ouais, ah ouais.
Alors, pourquoi la chauve-souris ?
Moi, avant, les chauves-souris, c'était un truc, vous voyez, j'aime pas la nuit. Ça. Non, parce que c'est extraordinaire. C'est les seuls mammifères volants. Donc, pour pouvoir voler, en fait, c'est une prouesse. Imaginez que vous voulez essayer de voler.
J'adore.
Bah oui, on a tous
rêve.
Bah, vous savez, c'est le rêve. Ah oui, c'est le rêve absolu, bien sûr. Eh bien, pour pouvoir faire ça, ils ont développé un système immunitaire absolument extraordinaire. Ils doivent d'ailleurs maintenir leur température corporelle à un certain niveau, sinon ils ne peuvent pas. Ce qui fait que ce sont donc d'excellents réservoirs, c'est-à-dire qu'elles hébergent plein d'agents pathogènes, mais elles ne tombent pas malades. Vous voyez, c'est comme des porteurs sains. Elles sont bourrées de saloperies, excusez-moi, mais elles ne tombent pas malades. Sauf que les scientifiques montrent que quand vous détruisez leur habitat, vous les contraignez à s'enfuir parce qu'évidemment, elles ne peuvent plus vivre. Et là, elles stressent. Et ils ont mesuré les hormones du stress dans leurs fesses, les fameuses, le caca de chauve-souris, vous voyez, et les urines. Et quand elles stressent, elles excrètent. Vous voyez, elles transpirent, enfin, voilà. Et donc, il peut y avoir un pangolin qui passe par là, même s'il n'a rien à voir avec la Covid, et qui peut être contaminé. Ou une civette, c'était le cas, par exemple, dans le premier coronavirus, 2003, n'est-ce pas ? C'était des civettes qui ont été contaminées, qui ont servi d'hôtes intermédiaires avant de passer à l'homme, parce que c'est ça, en fait, le chemin, n'est-ce pas ? Donc, les chauves-souris sont magnifiques, il y a des insectivores, des frugivores, enfin, et puis elles sont indispensables.
Vous êtes en train de réhabiliter...
Très grande consommation de moustiques. Ouais. Elle est les
vous réhabilitez aujourd'hui l'animal dont on dit le plus de mal en ce moment partout dans le monde.
Bien sûr, ouais. C'est terrible même. C'est l'animal le plus étudié aujourd'hui, c'est ce que m'expliquent les scientifiques, depuis qu'il y a eu Ebola, parce que c'est aussi un virus qui vient d'une chauve-souris, mais aussi le SARS et maintenant la coronavirus.
Passons à ce qui est, je trouve, encore plus passionnant dans votre livre, c'est les chapitres des solutions, car il y en a de nombreuses, vous le disiez, Vinciane Després, et simplement, il va falloir faire preuve d'un tout petit peu d'imagination, en rabattre un peu notre caquet, remettre l'homme à une autre place parmi le vivant aussi, et puis se poser la question que Serge Morand pointe comme étant, dès l'introduction, comme la principale, certes le vaccin, mais bon, le vaccin ne réglera pas la question, il est important de se faire vacciner, on est bien d'accord, c'est pas la question. La question, c'est comment on fait pour que ça ne se reproduise plus. Et là, Morand vous dit, il va falloir comprendre comment quelques chauves-souris ont pu transmettre à toute l'espèce humaine, partout dans le monde, ce virus.
Oui, mais en même temps...
C'est l'étude des causes qui nous permettra d'éviter l'effritement et l'effondrement.
C'est ce qu'il dit.
Ou est-ce que c'est inéluctable?
Alors, moi j'espère que c'est pas inéluctable, enfin je veux dire... Ce que disent ces scientifiques, c'est que si nous ne changeons pas notre rapport à la nature, si nous ne revoyons pas tous nos logiciels économiques, parce que c'est ça de quoi il s'agit aussi, hein, c'est-à-dire, un exemple très concret, il faut qu'on arrête d'importer du soja transgénique d'Argentine, sujet que je connais bien, pour nourrir les élevages intensifs bretons. Il faut le dire carrément, parce qu'on ne peut pas continuer à les nourrir, ou d'ailleurs belges, les poulets avec du soja qui vient d'Argentine, parce qu'on déforeste pour faire ça. Et quand on déforeste, ce n'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour la biodiversité et c'est pas bon pour notre santé parce que c'est ça qui va permettre à des virus qui sont là depuis la nuit des temps d'émerger. Donc voilà, il faut un certain courage politique.
Comment fait-on, attendez, pardonnez-moi Marie-Monique Robin, comment fait-on pour éviter de reproduire ce que vous montrez? Vous montrez une chose, depuis 1989, on sait qu'une pandémie va arriver. Tous les spécialistes à qui vous parlez disent on ne comprend pas l'impréparation tragique, grotesque de certains pays, la France en particulier. Comment faire pour qu'on évite, quand on va revoir cette émission dans 10-15 ans et que les archéologues se pencheront, s'ils ont que ça à faire, sur ce qu'on faisait en ce jour de 2021, pour éviter de se dire, bon bah tiens, en fait, ils savaient. Il faut arrêter le soja, il faut arrêter l'agriculture intensive. Et ils ne l'ont pas fait.
Bah oui, c'est la même question que pour le climat. Parce qu'en fait, ce qui est absolument frappant dans cette histoire, c'est que si nos hommes et femmes politiques, au niveau national, mais aussi évidemment au niveau international, parce que là, on est dans une vision holistique, c'est ça que disent aussi nos scientifiques, vision globale.
Total, globale, ouais.
Globale. Donc, il faut reconnecter les activités humaines. Vous voyez, on ne peut pas continuer à se dire, on fait des mines, j'arrive de Guyane, donc par exemple, d'or, et on déforeste, sans tenir compte des effets que ça a sur l'eau, parce que c'est ça que vous avez compris en lisant cet extrait de mon livre. On abat un arbre et vous provoquez une maladie à l'autre bout de la planète. Et c'est lié, vous voyez. Donc, il faut une vision holistique. Donc, il faut avoir le courage politique de dire, eh bien, par exemple, il faut absolument maintenant interdire, en tout cas, faire en sorte que nous n'importions plus d'huile de palme, comme on le fait en France, notamment pour une raffinerie totale, pour la nommer, dans les Bouches-du-Rhône. Parce que quand on fait ça, eh bien, on contribue au dérèglement climatique et à l'émergence de maladies infectieuses. Mais il faut arrêter de balader des trucs qu'on n'a pas besoin de balader, vous comprenez? Les animaux, morts ou vifs, les pauvres, les marchandises, etc. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question, ce qui est très intéressant, c'est que ces scientifiques, ils savent ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qui manque, vous voyez, c'est la volonté politique.
De les écouter.
De les écouter. Et la bonne nouvelle, je me répète, mais c'est que c'est du win-win, comme on dit en anglais. C'est que si on prend les mesures qu'ils préconisent, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la biodiversité.
C'est pour ça que je disais que votre livre n'est pas du tout un livre anxiogène. Comme vous le dites, la bonne nouvelle. Et il y a plusieurs bonnes nouvelles. Ça passe aussi par l'éducation. J'ai eu le sentiment, en vous lisant, que peut-être on arriverait aux cimenfants. C'est-à-dire à la symbiose. Peut-être créerons-nous un jour une génération d'enfants. Ne faudrait-il pas, Marie-Monique Robin, aussi que ça passe par l'éducation?
Bien sûr.
Ne faudrait-il pas que cette biodiversité, dont on comprend, en vous écoutant tous depuis tout à l'heure, que sans elle, il n'y a plus de place pour l'humanité oui. sur Terre, soit enseignée
bien sûr,
parce dès que le plus jeune âge.
Ce que disent ces scientifiques aussi, c'est que, nous, vous savez, l'épidémie, la pandémie de Covid-19 était attendue par ces scientifiques, mais ils disent aussi, on a souvent dit que c'était une crise du soin, on a besoin des soignants, etc. Mais c'est une crise du soin global. Et ce qu'ils disent aussi ces scientifiques, nous devons réapprendre à prendre soin des animaux, des arbres, des plantes.
Accompagner, je reprends le verbe de Vinciane Després de tout à l'heure.
Enfin, bien sûr, et donc ça passe par l'éducation, c'est-à-dire que nos enfants, ce sont des qualités qu'il faut absolument encourager par des activités, dans les jardins potagers, dans les écoles primaires, on va semer une semence, parce que prendre soin d'une semence, c'est la vie. Et dans toute la forme holistique du terme d'ailleurs, hein, la salade qui va pousser, mais aussi la vie. Enfin, donc ça, c'est absolument capital pour les générations à venir. Mais là, on est dans l'urgence.
Alors, l'écologie planétaire de la santé, ce que vous appelez, ce qu'ils appellent une écologie planétaire de la santé, en deux mots, quel en serait le pilier ?
Alors, le pilier, c'est relocaliser, en fait, la production, la consommation, alors des aliments en premier, parce que ça, c'est très important, mais aussi de tous les biens dont on a besoin pour vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'échanger, encore une fois, hein, mais vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, une mesure absolument capitale, ça c'est l'un des objectifs de l'ONU, je vous rappelle qu'en octobre, il y aura peut-être enfin la conférence de Kunming, qui est la COP15 de la Convention sur la biodiversité. On va évaluer 20 objectifs qui ont été pris en 2010, évidemment ça n'a pas marché, mais il y en avait un qui était très important, c'était de ne plus toucher aux forêts primaires. Ça a raté, complètement raté évidemment. Et là, il faut absolument arrêter de toucher aux forêts primaires. Non, pas seulement parce que c'est capital. C'est capital pour la vie.
Il y en a plus beaucoup.
Il y en a plus beaucoup. Quand on voit les données qui ont été fournies par Global Forest Watch, qui est une ONG américaine qui recense ça tous les jours. C'est terrible, vraiment. 23 millions d'hectares de forêts partis en 2019, par exemple, hein, dont 5 millions de forêts primaires. Donc, il faut absolument respecter ces accords qu'on appelle, enfin ces objectifs d'Aichi, enfin bref, arrêter de déforester, première chose, relocaliser, déglobaliser au sens, vous voyez, arrêter de balader des trucs qu'on n'a pas besoin de balader parce qu'on a des poteries chez nous, c'est pas la peine de faire venir des poteries de Chine parce qu'après on a des espèces invasives, mais c'est tout ça, c'est la même histoire. Hein.
Donc on savait tout, il n'y a plus qu'à.
Oui.
C'est un peu ça.
Voilà. Ce qui est super, et ça me fait plaisir, c'est qu'on m'écrit beaucoup de lettres en me disant merci parce que c'est très anxiogène le monde dans lequel on est, n'est-ce pas, depuis 2 ans tous là, avec nos masques, on ne sait pas ce virus, comment il est sorti, pas sorti, enfin, c'est terrible. Et finalement, ça remet de la cohérence parce que quand tu peux identifier...
Et de l'espoir.
Tu peux identifier les causes. Enfin, moi, tu te dis, ouf, c'est pas... Voilà. Je pense aux jeunes, moi, aussi, beaucoup. Hein. Rendez-compte le monde dans lequel sont nos jeunes, quoi, 18, 20 ans, 25 ans.
Ben voilà.
Tu leur dis, ben voilà, on sait d'où ça vient, et maintenant, on sait ce qu'on peut faire, on peut agir. Et ça, c'est quand même, ça fait du bien, quoi. Parce que sinon, je sais pas, c'est le désespoir généralisé. Et puis, ça a des conséquences énormes, à tout point de vue, démocratiquement. Enfin.
Mais ce n'est pas l'esprit du livre.
Non, ah non.
Voilà le livre qu'il faut offrir aux jeunes cet été. Tiens, tous les jeunes devraient partir où ils veulent, sur la plage, dans la nature, avec ce livre très, très facile à lire. C'est un roman, sauf que c'est un roman vrai. La fabrique des pandémies aux éditions La Découverte, Marie-Monique Robin, et avec la complicité notamment de Serge Morand et d'une soixantaine donc, de scientifiques du monde entier. Je voudrais maintenant vous présenter un homme, mais alors un homme qui a choisi de quitter la ville pour vivre en pleine nature. Il s'appelle Jean-Baptiste Hamelin, il est libraire, il a ouvert il y a 17 ans maintenant le Carnet à spirale à Charlieu, village de 3700 habitants. Charlieu, c'est dans la Loire, et vous allez le voir, il croit fermement au pouvoir des livres. Suivez les guides, c'est pas William Scheller, mais Inès de la Motte-Saint-Pierre.
Le pays où j'ai installé la librairie, c'est un pays de ciel bleu, de nature, de verdure, de vaches charolaises. Il y a vraiment la place d'une librairie à Charlieu et d'une grande librairie. On est un lieu de destination et non pas seulement un lieu de passage. Les gens font 20, 30, 40 km pour venir. On éveille leur curiosité. Et ils sont effectivement très attachés à la librairie. Donc ça a tout son sens de l'installer à la campagne. Je suis libraire, j'aime les livres, mais je voulais être riche. Et je suis riche, immensément riche. J'ai des bibliothèques dans la tête, j'ai des châteaux qui ne sont ni en Espagne, ni sur du sable. Moi, dans les lectures, ce que j'aime particulièrement, c'est être bougé, bousculé dans mes certitudes. J'aime bien apprendre des choses. Et ce que j'adore, après, c'est partager avec les lecteurs.
«
Le classique à découvrir, c'est Conrad, que j'aime beaucoup. C'est La Folie Allmayer. C'est une écriture de nature, de description aussi sur la mer qui est absolument fascinante. Conrad n'est pas assez lu et il devrait être relu dans notre si belle littérature qu'on appelle vagabonde. Et cette trilogie-là, elle est en plus à offrir à des jeunes à partir de 15-16 ans, ça passe sans aucun souci. Mon livre immoral, c'est Mon frère, ce zéro, de Colin Thibert. C'est trois pieds nickelés qui vont mener à un coup immanquable. Mais vraiment immanquable, qui va fatalement manquer, bien entendu. Livre immoral, pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont trouver sur leur chemin sont pires qu'elles. Colin Thibert s'amuse, ça c'est sûr, ça fait vraiment du bien. Le livre fascinant, c'est Épépé. Fascinant par sa construction qui emmène le lecteur dans un piège, en même temps que son personnage principal, Boudaï. Un jour, il descend de l'avion, il prend un bus et il ne sait pas où il est. Il est dans une ville où les gens parlent une langue qu'il ne connaît pas. Ils parlent juste comme ça les uns les autres. Ils font épépé, 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 épépé. Et ils se comprennent tous. Je vous dis pas comment on s'en sort, mais c'est franchement dérangeant. Le livre inclassable, c'est Lisière de Kapka Kassabova. C'est autobiographique, c'est une jeune femme écossaise qui retourne sur la terre de ses parents. Ses parents, c'est la Bulgarie. Et elle est à la lisière, à la frontière grecque et turque. La force de ce livre, c'est la profondeur de l'écriture. Elle est vraiment tellement à la lisière de ces genres différents que ça rend le texte très poétique. Le livre Nature, c'est le livre de Fabio Antina. Ça s'appelle Jour à Leontica. C'est la vie de Felice qui a 90 ans. Et Felice est une sorte d'ermite, une sorte de sage. Et chaque jour, entre 5h30 et 6h du matin, il s'en va. Il grimpe dans la montagne. Mais que fait-il? C'est un rapport à la nature très pur, très, très tendre. C'est vraiment très, très beau.
Et on reste dans la nature avec Vinciane Després, Didier Van Cauwelaert, Marie-Monique Robin et Christophe Bataille. Il faudrait passer sa vie au pied des arbres. Vous ne trouvez pas? C'est une phrase du dernier roman de Christophe Bataille, roman court, comme tous vos romans, hein, Christophe Bataille. C'est-à-dire que vous, c'est la brièveté, votre marque depuis Annam, en 1993. Alors c'est un court roman dont on a déjà un petit peu parlé ce soir. Court, mais fort, très puissant pour raconter l'histoire d'un homme et d'un arbre. Histoire contrariée par des animaux qui sont pas franchement des sauveurs, hein, Didier Van Cauwelaert. Les frelons asiatiques, la brûlure, raconte la chute d'un élagueur, un grimpeur d'arbres, comme il se nomme lui-même. C'est aussi un hymne à l'amour et au retour à la vie dans la nature. C'est un métier dont on parle peu, finalement, élagueur, Christophe Bataille. Pourquoi vous passionne-t-il autant, au point que vous racontiez la vie de l'un d'entre eux?
En fait, c'est la famille. C'est-à-dire qu'il y a, je vous dis ça brièvement, mais il y a 7 ans, j'étais à une fête de famille et j'ai croisé cet homme, mon cousin, qui vit près de Bourges, capitale alchimique, centre géographique de la France, Jeanne d'Arc, Charles, le secret du roi de France. Et puis comme tout bon parisien, j'évite de dire tout con parisien, je lui dis « mais t'as l'air très en forme ». Et il me dit « écoute, oui, enfin, j'ai passé 6 mois dans le coma ». Il fait une chose très belle, ouais. Devant, je pense, ma dubitativité, c'est qu'il soulève ses manches, il ouvre sa chemise et il montre 2 ans après les brûlures, les piqûres. Donc il me dit, j'ai été piqué 130 fois, 50 fois au visage. Et cet homme qui a connu toute sa vie, qui n'est pas un prédateur, qui a connu toute sa vie les colonies pénitentiaires, les colonies de chenilles, les phasmes, les araignées, les frelons, etc., me dit, là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Je connaissais le nom. Donc, quand il arrive sur ce être de 40 mètres de haut, dans la sphère, ni terrestre, ni humaine, où il faut faire une seule chose à la fois, pas de téléphone, pas de clé, pas de pensée pour ce soir, pas de to-do list, il entend au-dessus de lui un son étrange et il comprend qu'il est sous un nid, une orbe d'argile, de terre, qui fait 50 cm de haut, dans lequel il y a peut-être 3, 4, 5, 6 000 frelons asiatiques, et qu'il va mourir. Et donc, il a 1 minute 30 pour descendre. Comme c'est un ouvrier, un professionnel, ce n'est pas un pur être mythologique, il descend en 1 minute 30, mais il est piqué 130 fois, 50 fois au visage. Mais il me dit, chaque coup, c'est un coup de pavé sur le visage. Arrivé par terre, il est quasiment mort. Et je me dis, mais je ne devrais pas dire ça à François Budel, je me dis, c'est une histoire pour moi. Moi qui ai travaillé avec Ritipane, avec Charlotte Rampling, qui ai aimé comme vous, je pense, Marceline, Ginette, Esther Senot, qui aient travaillé sur...
Vous avez travaillé, et c'est votre sujet dans tous vos livres, et c'est mon sujet. Les survivants.
Sur les survivants. Tout d'un coup, je me dis, au fond, c'est un survivant. Il est comme le héros de D.H. Lawrence, l'homme qui était mort. Mais c'est une facilité. Parce qu'en fait, après plusieurs mois, il a repris vie, il s'est redressé, il a peur des mouches.
Mais il y a les stigmates. Vous le disiez tout à l'heure, les traces de brûlures.
Les traces de brûlures.
Le corps. Est-ce qu'on, est-ce qu'on doit dire défiguré,
le corps
transformé
en, le corps en feu, on est du côté Elephant Man. Il a un corps en feu, abîmé, travaillé. Donc on est très loin peut-être du poulpe, on est très loin d'expérimentation. On est vraiment dans un point fixe. Dès le début, il y a un cadre qui est du côté des meules de foin, de billets.
On est du côté du dérèglement climatique, car vous situez cette action un jour d'été, par des fortes chaleurs.
C'est l'été.
À un moment où c'est un été caniculaire.
Il se sent bien, les grandes chaleurs n'arrêtent jamais, il se sent peut-être un peu fort, en forme, c'est son premier travail, le être est magnifique, il a une belle équipe, il a des gars, et il n'a pas vu ça. Il n'a jamais vu un frelon asiatique, et simplement il tombe dans une chute presque biblique. J'ai été éduqué, évidemment, dans le monde très chrétien. Il tombe en bas et là, traverse, comme au psaume 22, la vallée de la mort. Et donc, seule sa femme, enfin une femme, puisque ce n'est pas un récit, c'est un roman, hein, peut l'attendre, telle Marie-Madeleine. Elle ne se lave plus, elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend, elle le guette pour le faire revenir parmi les vivants.
Est-ce que je peux dire, Christophe Bataille, qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation... théologique chrétienne aussi poussée que la vôtre pour goûter les plaisirs et la dureté aussi de ce livre. Enfin, je m'adresse à vous, révérend père. Quel est le sens de cette métaphore, justement, cette traversée de la vallée de la mort, mais aussi cette chute d'un paradis qui est l'arbre pour lui, une espèce d'Éden.
Parce que c'est pas un prédateur. Moi, je suis un type des villes, peut-être que vous aussi. Lui, à 14 ans, c'est un enfant de Jack London. Il roule dans l'herbe. Il va avec son père, les petits murs tombent, les rues sont asséchées, il pousse, il roule dans les blés et les seigles chers à Aragon, et puis la nature rentre dans la maison.
Mais comment devient-on élagueur ? Parce qu'élagueur, c'est un métier étrange, vous l'avez dit tout à l'heure, l'élagueur ne tue pas, l'élagueur est celui qui cherche à comprendre. Vous avez une très belle phrase, à un moment il dit « cet arbre, je ne l'affronte pas, je le cherche ». C'est un acte à deux. Comment il s'écarte ? Pourquoi il ploie ? Pourquoi il ne grandit plus ? Pour le comprendre, il faut se mettre en lui. Comment alors, moi, c'est d'ailleurs pour se mettre en lui.
Oui. Moi, c'est la partie que je préfère. C'est-à-dire que Philippe, ou le héros, monte dans l'arbre. Il est donc, comme je l'ai dit, dans la sphère où tout est extrêmement dangereux. Il est seul avec son matériel. La corde, la scie égoïne, le poignard, il a 20 kilos sur lui. Il a du matériel, c'est un professionnel. Ce n'est pas un benêt qui arrive à la campagne et qui se dit... ça y est, je vais faire des choses. Mais il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Donc pendant 30 ans, dans cette maison, avec sa copine, avec qui il roulait en mob, en 103, en 104, et ça sentait le fioul et la sueur, etc., il n'avait jamais vu ça. Et là, il note chaque matin ce qu'il appelle l'échaudure.
Il tient son journal.
Il tient son journal.
C'est formidable.
Et il note...
le carnet intime des pensées de l'arbre et des siennes.
Voilà.
Il pense un arbre ?
Ah ben, bien sûr.
Qu'est-ce que pense l'arbre, par exemple, de l'élagueur qui monte avec une tronçonneuse ?
Ben, ce qui est certain, c'est que cet arbre-là va mourir. C'est-à-dire qu'il y a un instant où, si j'ai bien compris, il faut aider l'arbre. Moi, ce matin, j'étais terrifié de venir aujourd'hui. Je suis allé en forêt près de Clamart. J'ai tenu un arbre contre moi.
C'est vrai, ça ?
Oui, c'est vrai.
Terrifié.
En me disant, est-ce que je suis un peu débile ou est-ce que j'ai raison ? Mais il m'a donné quelque chose. Mais merde, cet arbre me parle.
Alors, qu'est-ce que vous dites, vous avez beaucoup écrit sur les arbres, beaucoup de romans,
de
séries.
Je sais bien.
Vous le disiez, vous enlacez les arbres, vous grimpez dans les arbres. Que comprenez-vous en lisant ce récit qui est entre le récit et le roman de Christophe Bataille, l'histoire d'un homme qui veut comprendre de l'intérieur un arbre, devenir lui, et qui tout à coup est presque trahi par les locataires de l'arbre.
Oui, c'est ça, c'est pas l'arbre qu'il trahit, c'est ce squatteur, pas un locataire, puisqu'ils sont arrivés là, ils ont pris la place du frelon européen, ils sont...
Les chenilles, les guêpes...
Donc, ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette cette intimité à la fois avec l'arbre et avec sa femme. Le roman s'appelle La brûlure, mais il n'y a pas uniquement la brûlure d'Épicure. Il y a la brûlure de cet été et il y a l'aspect torride de cette relation aussi avec cette femme qui vous intercale très très bien toute cette sorte de chaleur, je veux dire. Et c'est cette chaleur humaine et sensuelle qui va lui permettre de survivre à la blessure, à la brûlure.
Votre livre aussi m'a touchée parce que je vois une parabole, mais là, écologique.
Laquelle ?
Parce que d'abord, la brûlure, évidemment, on pense au dérèglement climatique, la chaleur. Les frelons asiatiques n'existaient pas jusqu'il y a 10 ans en France, il n'y en avait pas en Europe.
Ils ne les voyaient pas.
Ils ne les connaissaient pas.
Ce n'est pas ça.
Ils n'existaient pas du tout parce qu'ils arrivent de Chine par le biais de poteries qu'on a importées de Chine
dans le Tarn-et-Garonne.
Poteries. Il y avait un petit nid de frelons asiatiques dans les poteries qu'on a importé dans le Tarn-et-Garonne. Et ils ont commencé à se disséminer. Donc, il y avait 2 reines, apparemment, dans la poterie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Asie, ces frelons asiatiques ne sont pas un problème. En France, il faut savoir que énormément de ruchers sont détruits parce que les frelons asiatiques mangent les abeilles. Moi, j'ai des ruches, c'est vraiment un gros problème pour moi, les frelons asiatiques.
Elles décapitent
les abeilles.
Elles décapitent les abeilles. Donc,
les abeilles qui sont déjà, qui ont beaucoup de problèmes avec les pesticides, avec le climat, etc., elles sont en ce moment menacées par les frelons asiatiques. En Asie, en revanche, ces abeilles, qui sont des espèces particulières asiatiques, savent gérer le frelon asiatique.
Vous savez
comment ils font, c'est extraordinaire.
Elles le cuisent. Ouais, on reste dans la brûlure, elles le cuisent.
En fait, la brûlure.
À 50, à 100, autour du frelon.
Ouais.
Et vous savez que les abeilles ont le pouvoir de changer les abeilles ventileuses qui gardent la ruche à 37 degrés, quelle que soit la température extérieure, parce que c'est de la clim réversible. Elles peuvent souffler du chaud ou du froid. Et là, elles soufflent du chaud et elles le cuisent. Et on est en train, avec des amis apiculteurs, justement, d'enseigner, c'est-à-dire de faire venir des abeilles, japonaises notamment, qui sont très fortes, pour apprendre à nos abeilles, à nous, à cuire le frelon asiatique.
Et à se débarrasser, parce que c'est un vrai fléau. Donc, je veux dire, il y a plein de dimensions. Donc, la brûlure, c'est différentes sortes de brûlures, mais c'est aussi le problème de la globalisation dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, pourquoi on importerait des poteries de Chine alors qu'on peut en faire chez nous, tout simplement? Mais c'est ça,
je reviens à l'arbre, si vous voulez bien. Je reviens à l'arbre. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire où vous avez voulu, vous le dites, sauver aussi ce personnage survivant par la présence de cette femme. Ils ne sont pas toujours d'accord. J'aimerais savoir lequel des deux a raison. Page 29, lui, les lagueurs. Il faudrait passer sa vie au pied des arbres. Quelques pages plus loin, sa femme. Il ne faut pas rester allongé au pied des arbres. Finit par voir des choses.
Parce qu'en fait...
Qui a raison ?
Au pied des arbres, il y a évidemment... Bon, ces jeunes gens sont là de façon pas très claire. Depuis... Ils ont 40 ans. Ils ont visiblement hérité de la maison. Lui est là, il n'a pas eu d'enfant. La mère est un peu partie. Bon, tout est un peu énigmatique. Elle est issue d'un village à côté, près de Bourges, dans cette France magnifique, qui est picturesque, qui est un paysage. Et... Ce qui me paraît certain, c'est qu'ils ont 2 visions différentes. Elle veut être avec lui, et qu'il y a de la sensualité, qu'il y a du désir, de l'attente. Il y a beaucoup de scènes d'amour, d'attente, de soie, de texture, de papier, de matière, ce qui pour moi était très difficile à faire. Et lui entend des choses mauvaises. Il entend par exemple la prophétie du roi de France. On dit que 500 ans avant...
Il a quand même cette vertu géniale, c'est-à-dire qu'il passe près des arbres et il se dit, mais cet arbre qui était là, il a vu passer les paladins, il a vu les dirigeables, il a entendu les bruits de la Grande Guerre, il a peut-être même vu les hordes sauvages déferler au 5e siècle sur les steppes.
Et nous, on est là avec nos petites questions banales. Et vous savez, moi, j'avais idée de ce triptyque, qui soit un retable en bois, comme au Moyen-Âge, avec la parole de l'homme qui chute, la parole de la femme qui attend, et une troisième partie, un peu énigmatique peut-être, qui était une façon de dire d'abord merci. Parce que tu vois, Philippe, où que tu sois, à Saint-Éloi-de-Guy, avec ta bagnole un peu merdique, avec les arbres, avec la peur, avec les mouches, et ben tu es là, et on voit qu'à 16 ans, tu es déjà tombé d'un arbre. Tu as tombé de 16 mètres, et tu as survécu. Et puis aussi parce que j'avais envie que la vérité ne soit pas univoque. On ne dise pas « il suffirait d'eux » et « si on faisait ça ». Ça, c'est de la facilité. Alors, une version complexe.
Rentrons dans la complexité de cette troisième partie. Est-ce que les hommes ont vraiment perdu la nature, comme vous l'écrivez, page 116 ?
Ils ont perdu la connaissance de la nature. Ça me paraît évident. Moi-même, ce matin, quand j'étais dans ma forêt de Meudon-Clamart à marcher, je me rends compte que je ne sais rien. Tout d'un coup, j'enlace un arbre en me disant « Je vais chez François Bunel, j'ai peur, je sais que c'est ridicule. J'entends des bruits d'oiseaux, mais je ne connais rien. Je ne connais aucun mouvement d'oiseau, aucun bruit, aucune signification. Je trouve ça beau parce qu'il n'y a pas de mobylette et que j'ai l'impression de me retrouver en mars 2020. Et je suis un bonnet. Or, lui n'est pas un bonnet. Lui, il repère ce qui va mourir, ce qui va vivre, les échaudures, le chaud, le froid, etc. Donc, il y a une très grande méconnaissance. Et je trouve qu'en partie, dans ce qu'on dit sur l'éducation, ce n'est pas tout à fait au prof, je crois, de biologie et de SVT que c'est possible. Moi, j'ai publié dans mon autre vie...
C'est à qui ?
J'ai publié dans mon autre vie comme éditeur Marc Janson, qui est botaniste au Muséum, ou, je n'ai pas publié cette femme, Christine Rollard, qu'on appelle Spider-Woman au Muséum, qui est une spécialiste des araignées. Ces gens-là, quand on les écoute, on se dit « Ah, mais on peut toucher l'araignée sans peur !» Ah, et là, je ne sais plus combien, 7 pattes, 8 pattes, ne vous inquiétez pas. Marc Janson, il a assisté à la résurrection d'une boule de soja de 1910 qui était éteinte. Et finalement, un type qui renverse dessus un peu de thé lui rend vie. Donc moi, mon unique travail, c'est de me dire, nous, les écrivains, les scientifiques, les philosophes, on parle amour, on parle science, on parle technique. Et si demain, on se lançait dans
tous
la
ensemble.
Lutte ensemble,
ouais, tous ensemble,
pour la beauté du combat contre la fin des temps. Moi, j'ai 4 enfants, de 10 ans à 22 ans. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, quand je t'ai fait, quand on t'a aimé, j'étais pas sûr. C'était bon avec ta femme, avec ma femme, avec ta mère, mais on ne savait pas ce qui se passerait. Qu'est-ce que je leur dis? Donc pour lutter contre ça, on ne peut pas être uniquement Greta Thunberg, scientifique, chercheuse, enquêtrice, etc. Il faut aussi y aller avec peut-être de la beauté. Et c'est pour ça que je montre cette jeune femme qui, elle a beau être mariée avec un très grand grimpeur d'arbres, cherche désespérément à monter et qui, au bout de 4 mètres, bon, ben, elle a un peu le vertige, elle échoue, elle recommence, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle l'attend. Elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend.
Vinciane Després, que vous évoque ce que vient de dire Christophe Bataille et ce livre, La Brûlure?
Alors, ce livre, je veux dire, quand je suis arrivée à la troisième partie du triptyque, j'ai senti l'impérieuse nécessité de relire ce livre. Et donc, je n'ai pas eu le temps de le relire totalement, parce que je savais qu'en relisant le début, j'allais comprendre autre chose.
Eh oui.
Parce qu'il y a quantité d'énigmes qui restaient fermées et je les voyais dans un seul... Et que je n'avais même pas perçu qu'elles étaient des énigmes. C'était des phrases dont elles étaient là, elles avaient tout leur sens, et je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était des phrases qui cachaient quelque chose, d'une certaine manière, et qu'il fallait non seulement que je revienne à ces phrases pour savoir qu'elles cachaient quelque chose, mais pour découvrir une toute petite partie de ce qu'elles cachaient. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un roman qui vous demande... C'est un roman très bizarre. Quoi.
C'est
roman...
son côté pasteur. C'est une pastorale et oui. il l'a dit. Hein.
Alors, moi, que voulez-vous je sais pas si c'est ça revient toujours.
Je ne sais pas si c'est pastoral, mais c'est un roman qui vous demande d'y revenir. Voilà,
oui.
C'est ça.
Et ça, c'est le premier point.
C'est le premier point et ça ressemble à cet égard à la poésie. Ça vous demande d'y revenir.
Il y a une poésie
brûlante. Non seulement parce qu'il y a une poésie, mais parce qu'il y a un geste du lecteur qui se sent pris par quelque chose, par un filet poétique. Il faut y revenir. Et puis le deuxième point, c'était le fait que la troisième partie m'a absolument surprise, et c'est sans doute pour ça que je suis revenue à la première, il y a une métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a une métamorphose comment ? Là, le romancier qui jusque-là, d'une certaine manière, décrivait des scènes où il y avait plusieurs personnages. Il y avait des arbres, il y avait une femme, il y avait la sensualité, il y avait le soleil, il y avait la brûlure de ce monde qui est en train de brûler. Et d'un seul coup, le narrateur est en train de devenir Philippe. Il le devient totalement. Je veux dire, il parle comme Philippe, il vit comme Philippe, il a un
donc,
rapport aux arbres.
Philippe, il est Philippe. Il dit une chose que moi j'aime beaucoup.
Il change de style, Philippe. Le style est beaucoup plus. Voilà.
Ici de Jean Calvin.
Voilà, et puis tout à fait. Et le style est beaucoup plus proche, d'une certaine manière, du réel, tout en étant extrêmement poétique, mais c'est une poétique plus brute, plus sobre, plus proche de la matérialité des choses. Et ça, pour moi, c'était extraordinaire de voir un personnage qui inspire et qui, d'un seul coup, va posséder le narrateur. Je pense qu'on était dans un régime de possession.
Parce que c'était ma réponse à l'éternelle question sur, qu'on connaît bien François Bunel, fiction, narrative, non-fiction. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est pas un roman? En fait, je m'en moque. J'essaie de faire un triptyque, un peu comme le retable de Grunewald. Et quand on prend l'entièreté de l'histoire, on comprend ce qui se passe. Moi, je prends ce que dit Philippe à la fin en citant Jean Calvin. dans un monde très démocratique. Et donc Jean Calvin s'entend dire par son équipe, par son conseil presbytéral à Genève, si c'est la fin du monde, qu'est-ce que tu fais? Et Jean Calvin dit, mais je plante un arbre.
Quand même. Oui, c'est, tout est dans le quand même.
Comme
prosaïsme.
Un pommier.
Quel prosaïsme. Donc bien sûr, le retour à la terre originelle, la Genèse, on va recommencer. Et moi, je dis aux artistes et à mes enfants, continuez. Le combat n'est pas terminé. Alors peut-être qu'il faut faire venir un animal qui fait un millimètre de hauteur. Peut-être qu'il faut penser à Toby Lolness. Peut-être qu'il faut penser à un mammouth. Peut-être qu'il faut penser à une enquête mondiale. Mais mettons-nous tous ensemble. Moi, j'ai un projet que je trouve très beau, par exemple, qui est de raconter aux gens leurs souvenirs de paysages. Je vais commencer à Michel Perrault en disant, Michel, dis-moi quand c'était en 1920 la neige. Mmh. Moi, je travaille à un conte qui s'appelle Conte de Noël sur mes Noëls sous la neige à Versailles. C'était il y a quoi? Il y a 30 ans, la neige à Versailles.
Ce qu'on n'a pas vu depuis 30 ans.
30 ans, et j'y reviens depuis 10 ans.
Oui.
Et je trouve ça beau de dire, bon, bah, bien sûr, ce n'est qu'un conservatoire du monde passé, mais je vous en prie, faisons ensemble ce travail, avec les libraires et les lecteurs.
La brûlure de Christophe Bataille, c'est aux éditions Grasset. Voilà, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble, avec vous, maintenant. Ce travail, vous qui nous avez regardés. Merci d'avoir suivi cette émission qui touche à sa fin. Merci à vous quatre d'y avoir participé. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la voir, la revoir en replay sur le site France.tv. C'était la dernière de la saison. On se retrouve le mercredi 1er septembre, toujours en direct, pour une 14e saison de littérature en prime time sur France Télévisions. D'ici là, tous les jours, tout l'été, sur France 2, sur France 3, sur France 4 et sur France 5, la petite librairie pour vous accompagner avec des conseils de lecture. Et puis, bien évidemment, l'émission est à entendre en balado-diffusion, en podcast, quand vous irez vous promener en forêt, par exemple, du côté des grands arbres sur lesquels vous ne manquerez pas de monter. Merci. À la saison prochaine, mois de septembre, je vous souhaite un bel été et surtout de très belles lectures. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.